Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! On est parti?
Yes!
Ok, cool! Eh ben, bonjour Marie-Hélène!
Salut Gauthier!
Je suis content de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys parce qu'aujourd'hui, on va parler pour la toute première fois d'une notion qu'on a très peu abordée dans le podcast, le Design Ops.
Yes.
Donc ça va être très cool, j'ai appris plein de choses en préparant l'épisode. Mais avant qu'on aille directement dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît?
Yes, donc moi c'est Marie-Hélène, du coup je suis Design Ops chez Agicap depuis quasi un an. Et j'ai eu un parcours qu'on peut qualifier d'atypique comme on aime bien le dire dans la Startup Nation. Il y a plus de 15 ans j'ai commencé ma carrière en faisant de la carrosserie automobile.
Ah, j'ai découvert ça.
Yes, c'était un peu clairement une voie de garage pour moi avec un contexte un peu familial compliqué. Et à la suite de ça, j'ai fait une année sabbatique, je me suis dit mais c'est pas trop ce que je veux faire, même si c'est un très très beau métier, manuel avec beaucoup de qualité, etc. Moi ce qui m'intéressait c'était les internets, je savais pas trop comment y arriver à ce moment-là. Et j'ai fait un an sabbatique et grâce à une pote, après avoir fait un stage multimédia, à l'arrache en fait, parce que à cette époque-là, ouais, après la carrosserie, j'étais au chômage. Et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'aide en fait pour les gens qui veulent continuer, se reconvertir, surtout les jeunes. Donc j'avais fait plein de choses, j'avais fait une mission locale. Les conseillers d'orientation, etc. Et finalement, j'avais hacké la possibilité de faire des stages qui s'appellent les évaluations milieu de travail chez Pôle emploi. Et ça m'a permis de faire un stage multimédia dans une petite agence à Strasbourg, parce que je suis originaire d'Alsace. Et là, gros déclic, trop bien. J'ai envie de faire ça toute ma vie. Et à la suite de ça, grâce à une amie, je découvre le DUT SRC, qui s'appelle aujourd'hui Métier du Multimédia et d'Internet. Et là, je postule un peu partout et je suis prise à Bordeaux. Donc, je quitte mon Alsace natale pour le Sud-Ouest.
Attends, je te coupe juste avant qu'on parle de ça. Tu dis que tout à l'heure, enfin en introduction, tu as dit que tu voulais travailler dans les internets.
Ouais.
Comment tu sais ça? Enfin, je veux dire, tu fais un stage pour essayer de valider ça. Tu sais, d'habitude, je reçois des gens dans le podcast qui me disent « Ouais, j'utilisais Photoshop avant, ou j'essayais des choses comme ça. » Est-ce que toi aussi, tu as fait ça ou c'était
Alors,
plus...
pas sur la partie créa. Okay. Pas concevoir au sens des choses, des sites ou autre chose, mais plutôt la com, en fait. Je suis plutôt rentrée par ce biais-là.
D'accord.
À cette époque, j'organise plein de soirées, plein d'events... des nouvel an dans des chalets de potes où on était 80, enfin bref. Et en fait, c'était plus sur le biais, Facebook émergeait à ce moment-là. On est en 2008. Et du coup, communiquer, teaser, mettre en relation plein de gens, etc. Et c'était plus, par le biais de la com, en fait. Et du coup, le DUT, avait cette brique-là. Et plein d'autres briques. Très polyvalentes.
Je te laisse reprendre sur les DUT.
Et très bien. Super la transition. Et donc ce DUT est très polyvalent, donc je me dis super, c'est sur 2 ans, je prends pas trop de risques, je sais pas trop où je vais, c'est gratuit, c'est pas une école payante où je m'engage pendant 5 ans, parce que pas de moyens, et c'est parti. Et en fait ce DUT là, donc très polyvalent, donc il y a de la com, de la prog, des algos, il y a quoi d'autre, du marketing, du droit, et là je me dis trop cool, ça c'est chouette, j'y vais. Sauf que j'arrive à Bordeaux, du coup, moi, j'ai un background de carrossière. Donc, en fait, je me suis arrêtée au niveau... J'ai fait une année de seconde quand même, mais niveau physique, niveau maths, ça suit pas. Mmh. Et donc, premier semestre, pas fou. Deuxième semestre, pas fou. Et je demande du coup à mes profs de redoubler. En fait, je pouvais faire sauter deux semestres et repiquer. Enfin bref, c'était un système un peu complexe. Et du coup, je sais qu'il y avait un espèce de conseil de classe qui allait avoir lieu. J'avais fait un mail spontané en disant « Moi, je veux rester dans ce DUT, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Je sais que ça va être positif par la suite. Donc, je redouble et je repars pour la première année.
Okay. »
Et qui se passe un peu mieux, mais pas ouf, pour être honnête. Et en fait, je capitalise sur les stages. Et, parce que ce qui était très cool aussi dans ce DUT, c'est que dès la première année, tu fais un stage. Et ça, ça te permet de faire, ok, je teste un truc. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, l'année prochaine, on fera un autre. Mmh. Et tu peux avancer en tunnel comme ça, quoi.
T'as commencé des stages dans le Dev, toi, en plus?
Ouais, oui, tout à fait. Le premier, c'était dans une petite agence du JS, ouais. C'était compliqué. Et le deuxième, pareil. Alors là, j'avais un mec extra, Thomas, qui m'a fait faire en Ruby. Un Twitter like c'était fou et hyper sympa, enfin en vrai c'est lui qui m'avait dit attends, du coup c'était la première année ça, qui m'avait dit vas-y continue ta formation, t'arrêtes pas, enfin avance quoi. Et après chez Azendu, donc ça c'était mon dernier stage de DUT, donc c'était une petite start-up à Bordeaux qui faisait de la gestion de projet, donc type Asana. Du coup il m'avait proposé de refaire l'onboarding de leur application.
Ok.
Donc là, je rentrais dans le produit, dans le dev un peu plus, et en fait, par définition, dans l'UX. Et en fait, on n'en parlait pas, en tout cas pas en cours à cette époque-là. Et là, gros déclic, donc je fais le stage, je voulais continuer du coup après le DUT, mais avec toujours une formation courte. Et j'avais choisi une licence de dev, mais à l'ancienne, ça je l'ai découvert plus tard. Et donc finalement, j'ai continué en dev chez eux pendant un an. Mais au bout de 6 mois, je me dis, je suis vraiment à la ramasse. Le dev, franchement, c'est pas mon délire. Je suis pas bonne dedans, quoi. Mais j'avais découvert 6 mois plus tôt l'UX. Je m'étais auto-formée. J'avais bouffé plein d'articles dans tous les sens. Et là, du coup, milieu d'année, j'ai des potes de mon an de DUT qui m'expliquent qu'il y a une nouvelle école qui ouvre, le CV digital, donc la brique digitale de le CV. Le CV étant présente à Bordeaux, du coup, je vois à peu près ce que c'est. Donc, je suis toujours à Bordeaux à ce moment-là. Et je me dis go, allons voir ce que Paris peut offrir. Sur l'UX, c'est ce sur quoi j'allais miser en fait, pas rester du coup vers Bordeaux ou ailleurs, parce que je me disais le cœur de la matrice va être à Paris, le choix d'alternance va être à Paris, parce que ma volonté c'était de continuer en alternance pour avoir du coup un revenu. Et donc j'ai regardé plusieurs écoles et le CV restait quand même donc le CV digital mon choix idéal.
Okay.
Et j'étais prise. Et donc là, il fallait trouver l'alternance. Et j'étais un peu short dans les délais parce que je finissais du coup ma licence. C'était un peu la cohue. Et je me disais, j'ai fait un peu de start-up. Finalement, l'agence, ça peut être pas mal. On verra plus tard si je ferai un gros groupe ou un autre format. Et j'étais en agence chez Dagobert à l'époque. Voilà.
Merci.
Voilà pour à peu près le début, quoi.
Et j'ai noté chez Dagobert, du coup, t'as bossé sur plein de projets, Orpi, enfin pour la marque Orpi, pour des groupes de luxe, des groupes industriels, des groupes de la distribution. En agence, tu fais quoi pendant un an? Parce que généralement, moi, dans ma tête, entre UX, et en plus, t'étais chez Dagobert, donc il y a plutôt une grosse agence, si je me trompe pas, j'ai toujours un peu cet antagonisme agence-UX, surtout dans les années 2015-2016.
Très bonne question. Et justement, c'est pour ça que je suis restée qu'un an. J'avais signé 2 ans pour le master en entier. Et en fait, donc du coup, effectivement, Orpi, c'était chouette. Je me rappelle qu'on avait fait pas mal d'ateliers UX, pas du tout avec le client, en tout cas pas à mon niveau. On était 2 alternantes dessus. Et c'était plutôt chouette. On bossait aussi sur Axur. Et j'avais trouvé le moyen de partager des librairies à travers du coup les serveurs de la boîte. Et Dagobert n'était plus si gros que ça à ce moment-là, parce que c'était 2-3 ans plus tôt, il y avait eu des gros problèmes de boîte, je m'en rappelle plus exactement, mais ça avait bien downsizé. Et effectivement, du coup, je suis mise sur d'autres sujets après. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, moi, j'ai signé pour une formation UX, j'ai envie d'apprendre. Et là, en fait, les users, je les vois pas du tout. Et finalement, je crois que c'est en février-mars que j'en parle à mon boss de l'époque. Et je lui dis, bah écoute, comment on peut faire évoluer les choses? Ah ouais, on peut pas trop. Pas de sa faute, hein, mais du système, quoi, de l'agence, effectivement. Et du coup, je lui dis, bah écoute, je pense que pour moi, c'est mieux que je m'arrête au bout de cette année et que j'aille chercher autre chose, parce que bah, moi, mon projet, c'est de me former. Et il m'a dit, bah ouais, ok, ça se trouve, je serais parti avant toi. Donc ça a confirmé un petit peu la direction que je voulais.
Tu retiens quand même des choses de positives de cette première année en agence? Je vais la faire de façon un peu moins biaisée. Qu'est-ce que tu retiens de cette première année en agence?
Qu'est-ce que je retiens? Moi, je me rappelle du coup d'avoir... Enfin, c'était les débuts de Sketch à ce moment-là. Et j'utilisais Sketch du coup chez Azendu grâce à Luc Chessac, designer sur Bordeaux, qui a eu un rôle assez intéressant là, du coup, dans mon début de carrière. Et ça, j'ai réussi à le pousser du coup en agence. À l'époque, c'était Photoshop encore. Et Axure pour la partie UX. Et donc, on avait réussi à pousser Sketch, à former quelques designers autres dans la boîte. Et ça, c'était cool. Enfin, du coup, de pouvoir proposer plein de trucs, en fait. Enfin, il y avait pas mal d'office hours au final et la liberté de proposer des trucs plus facilement, je trouve, en termes de collab que dans les boîtes qui ont suivi par la suite.
Ah ouais?
Ouais. Okay. Du moment, vraiment le côté un peu. On est obligé d'innover, on n'est pas forcément dans le meilleur contexte, mais on doit partager vite pour s'adapter.
Et puis comme en fait tu changes à chaque fois de projet, c'est peut-être plus simple de changer d'outil que dans une boîte dans laquelle tu es...
C'est vrai, ça peut... Oui, effectivement, tout à fait.
Je sais pas,
c'est un peu loin dans ma tête, donc je pourrais pas pu avoir un avis vraiment clair là-dessus.
Ça marche. On va parler de ton deuxième apprentissage, Oscaro. Du coup, une plateforme de vente de pièces automobiles. La première question que j'avais, c'est, t'as choisi Oscaro par rapport à ton expérience dans la carrosserie ou ça n'a absolument rien à voir?
Ça a presque rien à voir. je cherchais. Du coup, donc, comme je t'ai dit, je me suis dit, ok, j'ai fait de la start-up, j'ai fait de l'agence. Là, il me faut une dernière expérience de fin d'école, de formation pour du coup aller au plus proche des utilisateurs. Je me suis dit, ok, il y a quelqu'un d'Oscaro qui me contacte parce que j'avais un peu balancé partout que je cherchais la suite de mon alternance. Je regarde le site, je me dis bof, pas ouf. Et finalement, 2-3 semaines plus tard, j'y retourne et je me dis en fait, il y a un potentiel de dingue, c'est génial. Effectivement, je connais le domaine, je vois en fait qu'est-ce qui peut être intéressant. Bon, alors j'avais mon biais à moi évidemment. Et finalement, le fait que j'arrive avec ce background carrosserie, ça a quand même marqué les esprits, ça a quand même permis d'avoir des discussions assez approfondies. Donc oui, c'est un peu lié, c'était pas voulu. C'était.
Disons que ça t'a aidé.
Je pense que ça m'a aidé, ouais, clairement. Ouais. Ouais, ouais.
Et du coup, là, comment ça se passe, cette deuxième année d'apprentissage?
Eh ben, c'est particulier parce que je rentre dans cette boîte qui, en fait, est un des plus vieux sites e-commerce de France. Ça date. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en place depuis longtemps. Il y a aussi du legacy. Il y a un enjeu à ce moment-là, du coup, de. Sortir un peu le monolithe. J'arrive au moment où ils créent une équipe front-end dédiée, donc ils sortent de l'équipe core, on va dire tech. Il y a une équipe design, mais qui est plus une équipe UI slash web marketing.
Okay.
Et moi, je suis rattachée à l'équipe front-end, en fait. Donc, il y a beaucoup de stakeholders qui sont un peu dans leur silo. Et moi, j'arrive en tant que première UX et en alternance, avec un peu beaucoup de fougue. Donc tout, c'est, enfin, j'ai pas eu le meilleur tact pour passer certaines idées. Et finalement, niveau user, bon, on s'y retrouve pas trop. Il y a une grosse équipe data. Il y a beaucoup de connaissances, mais elles se transmettent pas forcément. Et il y a tellement d'enjeux avec du coup des choses qui reviennent du service après-vente, qui est une entité quasi à part dans la boîte. Donc finalement, c'est pas évident en fait ce rôle-là d'alternant dans ce type de structure, et avec du recul, moi j'ai foncé en me disant trop bien, j'avance moi-même, mais il aurait fallu, je pense j'aurais gagné du temps si j'étais allé dans des boîtes où il y avait déjà des équipes design.
Ok, oui, parce que du coup t'es apprenti mais t'as personne,
absolument personne,
pour te guider au-dessus.
Ouais, ouais.
Donc démerde-toi un petit peu, quoi.
Exactement, mais c'est aussi du coup très lié à mon parcours de depuis le DUT à Bordeaux, il y a une communauté web assez dynamique sur différents aspects. À l'époque, il y avait les Bordeaux JS, il y avait des apéros, je sais plus ce que c'était, tous les CMS et tout qu'il y avait à l'époque là. Et très vite, du coup, en parallèle de mon DUT, je vais dans ces events et je rencontre des gens. Et je rencontre du coup des devs, des gens qui sont aujourd'hui encore des meilleurs potes. Mmh. Et du coup, la même chose se produit quand j'arrive à Paris, donc quand j'arrive pour Dagobert. Et encore plus, du coup, avec Oscaro. Donc, c'est aller dans les events, se former, discuter avec des gens, rentrer sur les Slack. À ce moment-là, je crois que c'était French Designer Club qui se montait ou qui commençait à grossir un petit peu. Puis d'autres communes, du coup, à Bordeaux. Donc, je restais un peu à cheval entre les deux.
Okay.
Et c'est comme ça que tu cherches à grandir. Puis après, avec les cours aussi, à discuter au maximum avec tes intervenants, les catcher, leur poser des questions, prendre du recul et compagnie. Mais effectivement, je me retrouvais salarié.
J'ai noté que tu avais commencé à ce moment-là à travailler sur un design system. Mmh. C'est quelque chose dont on va reparler tout au long de la discussion, je pense. Mais comment ça se passe? Parce que tu parles d'une grosse boîte qui a besoin de sortir du monolithe, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives facilement à mettre en place? Quelque chose qui était, à l'époque, 2016-2017, c'était pas encore the big thing. Mmh. Du coup...
Et surtout dans cette boîte, ouais.
Ah ouais,
en fait, ça commence un peu plus tôt. Ça commence justement chez Dagobert. Je te parlais d'avoir mis en place du coup des librairies de composants avec Axure. Ouais. Et avec Sketch, on pouvait aussi le faire avec les symboles. Ouais. Donc la volonté du coup de partager les assets, elle est même antérieure du coup finalement à Oscaro. Sauf que je ne l'avais pas fait sur les projets sur lesquels j'étais parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin du coup en agence. Mmh. Mais effectivement, j'arrive chez Oscaro et la première mission que j'ai, parce que ça m'a marqué, c'était... à l'époque, il y a du coup une SERP, page de résultats, de produits, et aucun moyen de les classer, en fait, ces produits-là. Donc, on imagine des essuie-glaces, t'en as peut-être 30 références différentes pour une seule voiture, et en fait, tu peux pas du tout les trier par marque, tu peux pas les trier par taille, tu peux pas les trier par matière, quoi que ce soit.
C'est quoi, c'est un menu déroulant et tu dois...
C'est une page, du coup, c'est tu scrolles, tout simplement.
Ok.
Donc du coup, le choix client est hyper complexe en fait. Donc ils se sont rendus compte de ça.
Okay.
Derrière, ils ont des bases de données de ouf. Et franchement, ça reste un projet extraordinaire au Oscaro. Enfin, moi, je continue à les regarder parce que je me dis, il y a un potentiel de dingue sur plein d'aspects. Intérieurement, je rêve qu'ils fassent des choses un peu comme Leroy Merlin et Decathlon en fait, en termes de contenu, d'accompagnement. Et je pense qu'ils y tendent un petit peu. Enfin, en tout cas, ils essayent. Et donc, ma première mission, c'est d'intégrer cette notion de filtre, de filtrage. Et donc là, comme je te l'ai dit, j'ai différents interlocuteurs. J'ai le monolithe, j'ai du coup l'équipe design, UI et la partie du coup front-end. Et puis il y a moi. Et je me dis, du coup, qu'est-ce que vous partagez? Est-ce que vous partagez des trucs? Genre, j'ai une checkbox. Est-ce que vous avez déjà des assets? Ah bah non, on n'en a pas. Ok. Du coup, ça commence par là en fait. C'est du coup, moi je vais créer une checkbox. Le design UI va créer une checkbox. Le monolithe va peut-être en créer une si ça passe pas par les fronts. Donc finalement, on va peut-être avoir 4 personnes qui vont bosser sur cet élément-là. Et j'en parle à mon CTO qui m'a recruté. Et puis le chemin faisant, au bout de quelques mois, je crois que ça arrive à peu près vers... Donc moi, je commence mon alternance en septembre. Ça commence vers la suite novembre-décembre. Je pitch le projet. Je dis, on pourrait créer une librairie de composants ensemble. Et donc ça passe aussi par... pousser ça auprès, du coup, on va dire, des chefs de projet, de dire « Ok, c'est quoi ?» Et hop, c'est parti, on envoie et trouver, du coup, les stakeholders qui sont intéressés par ça. Donc, côté UI à fond, côté dev front à fond. Et puis, on avait en plus, du coup, les intégrations HTML, CSS aussi, des intégrateurs.
Okay.
Donc, finalement, c'était plein de stakeholders différents.
Okay.
Et du coup, on a poussé le projet comme ça. Et il était question, ils ont trouvé le projet pilote, c'était la refonte du coup du checkout, donc à partir du moment où t'as ton panier jusqu'à du coup la confirmation de la commande. Et on est parti là-dessus. Et alors moi c'était marrant parce que je bossais sur Mac, sur Sketch, et du coup les UI étaient sur Photoshop, donc là il y avait déjà un frein d'outils technologiques.
Okay.
Il a fallu des mois avant qu'un autre Mac arrive dans la boîte. Mais c'était trop tard. Mais je crois que le projet est toujours en cours. Hein. Ils appellent ça toujours de la même manière. Hein. Oscaro Pattern Library. Je crois que c'est, okay. C'est toujours quelque chose sur lequel...
Sur lequel ils travaillent.
Ouais, ouais.
En même temps, un design system, c'est un projet qui s'arrête jamais.
Oui, mais ça prouve que du coup, il a perduré. Il aurait pu s'arrêter. Enfin, je pense qu'il a été... Enfin, il a dû y avoir des histoires ou des aléas. Mais en tout cas, le concept a perduré.
Ok. Et quand tu dis que ça s'est arrêté... Enfin, que toi, ça s'est arrêté pour toi, c'est... T'as voulu arrêter ton apprentissage? Ils ont pas voulu te garder? T'as voulu...
En vrai, j'aurais bien voulu rester, mais à la fin de mon... Alors du coup, moi, j'avais calculé mon coût en me disant, ok, c'est la dernière année de master. Il y a quand même plein d'épreuves à partir de mars-avril. J'avais signé pour un an. Et moi, je voulais tout anticiper pour être hyper tranquille. Donc j'ai eu des discussions très régulières en disant, bon voilà, moi je suis hyper intéressée par le CDI chez vous. Je crois au projet, il y a des choses intéressantes à faire, etc. Par contre, moi j'ai mes enjeux d'école et j'aimerais que ça se passe au mieux. Donc j'ai dit, bon, ouvrons les discussions assez tôt pour que je puisse être tranquille et finir mes examens. Ça s'est évidemment pas passé comme ça. Et moi je voulais du coup que ça qu'on soit fixé genre en avril, que je puisse finir le reste de l'année. Et finalement j'ai mes derniers examens en juin, on est en gros projet pendant 2 semaines et je sais toujours pas ce qui se passe. Les missions, donc j'ai de nouveau des points internes, c'est quoi les missions, c'est quoi les objectifs pour le CDI, ça changeait pas trop de ce que j'avais vu pendant un an. Et là, je me suis dit, je sens pas trop. Et j'ai appelé mon ancien manager de mon ancienne boîte et je lui dis, ouais, je suis pas hyper à l'aise avec le truc. Et il me dit, bah, t'as plusieurs options. Bah, t'y vas. Ça te sécurise un emploi après ta formation et c'est déjà plutôt cool. T'y vas et tu fais à fond ton portfolio pour dégager très rapidement après. Ou tu dégages maintenant et tu te trouves un taf rapidement, quoi. Et je dis, bah, écoute, je crois que je vais prendre la troisième option.
Mais surtout que en même temps, t'étais freelance, c'est ça?
Je faisais un peu de freelance à côté, ouais, pendant ma soirée.
Ouais, parce que j'ai noté que t'avais bossé pour un service, pour un service en ligne pour les exploitations de métiers de l'eau.
Ouais, luxe à quoi?
Ah, c'est hyper précis quand même.
Ouais.
Et tu faisais ça juste en aparté, tu faisais ça quoi sur ton temps libre?
Alors le temps libre que je créais, ouais, parce que j'avais pas beaucoup de temps libre.
Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du freelance à côté de des études de
ce très simple, l'argent. Okay. Moi, j'arrive à Paris, j'avais un meilleur salaire en alternance à Bordeaux que en arrivant. Donc j'étais convention Syntec, donc je gagnais à peu près 1100 euros à Bordeaux, donc ce qui est largement suffisant pour quelqu'un jeune actif pour payer un loyer et vivre correctement. Surtout en se déplaçant en vélo, pas de frais de transport, etc. J'arrive à Paris, je suis convention collective de la pub. On me propose chez Dagobert, je crois que c'était 800 euros. Donc c'était même limite pour un loyer, quoi. Ouais. Et mon grand-père m'aidait, mais je me suis dit, putain, j'ai, je sais plus quel âge j'ai à cette époque-là, mais je me dis, bah, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux pas qu'ils subissent mes choix, en fait, et que financièrement, ils doivent du coup subvenir à mes besoins à vita aeternam. Donc j'avais négocié d'ailleurs mon salaire chez Dagobert. C'est quelque chose qui est possible. En fait, les salaires d'alternants sont des planchers et pas des plafonds.
Ok.
C'est le minimum, mais il peut y avoir plus. Et ça, j'ai refait d'ailleurs chez Oscaro. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Et donc chez Oscaro, je crois que j'avais commencé le freelance en étant chez Dagobert. Freelance du coup que je trouve par des potes de potes de potes qui me disent bah tiens tu peux aller bosser chez eux, donc j'ai bossé avec cette boîte quelques temps et du coup je commence Oscaro, pareil du coup je deal mon salaire et en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais, il y a eu un malentendu du coup avec le CTO qui m'a recruté et les services RH par la suite, donc c'était 3 semaines de négo juste avant que je commence mon contrat, c'était un peu tendu en plein été. Et finalement, je pousse la négo à dire, bah ouais, mais du coup, moi, j'ai vraiment pas assez d'argent, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir payer mon loyer toute seule. On me dit, oui, mais moi aussi, j'étais en intense. Bah ouais, mais fine, c'est d'accepter ça, mais moi, j'ai pas envie d'accepter ça, en fait. Et donc, j'ai réussi à dealer que les jeudis après-midi, en fait, je bossais 4,5 jours.
Ok.
Et donc, le jeudi après-midi, je bossais pour moi, pour mon freelance.
Ok.
Et ça me permettait de faire 2 jours pleins par mois et en fait, de doubler mon salaire d'alternante.
C'est plutôt intéressant.
Ouais, bah ouais, grave.
Et du coup, t'as appris plein de choses quand même en même temps qu'en faisant du freelance. Ça t'a aidé, je veux dire, dans ton boulot du quotidien ou c'était plus alimentaire et donc du coup, on te demandait de...
Clairement, c'était un objectif alimentaire. Par contre, j'ai appris des choses et je pouvais expérimenter des choses aussi. Ouais. À l'époque, on bossait sur Sketch, il y avait Abstract qui commençait.
Ouais.
Et donc du coup, moi, j'ai commencé à tester Abstract avec le freelance. C'était aussi du coup d'autres stakeholders, tu t'adresses à eux différemment. C'était des gens qui étaient limite plus réceptifs dans certains cas à certaines choses en fait, certains D'accord. projets. C'était une petite start-up en fait et le mindset était complètement différent. Qu'est-ce que j'ai pu expérimenter d'autre? T'as aussi la responsabilité à part entière du projet en fait. C'est quelque chose que t'as moins du coup en structure, je trouve. Ouais, j'en gardais bons souvenirs quand même de ce freelance parce que c'était vraiment une équipe assez cool. Et en fait, ce que j'en retiens, c'est surtout t'es ton propre patron. t'as tes honoraires, faut que tu t'ailles sharp. Mes premiers devis, c'était n'importe quoi. J'avais devisé, je sais pas, fallait faire un parcours entier, j'avais estimé 4 heures par exemple. Enfin, et je me retrouve du coup chez moi à bosser le soir, beaucoup plus que mon jeudi après-midi. Et là, je me dis, merde, mais il faut que je trouve une autre façon de faire. Et là, je demande du coup à des potes, comment tu devises correctement. Ils m'ont filé des tips, tu découpes toutes tes tâches jusqu'à ce que tu puisses quantifier. Ensuite, tu cumules tout ça, ça te fait par exemple, je sais pas, 6 jours de travail. Tu mets ça dans ton devis, tu le justifies, ça passe. Et quand tu mets ça et que tu donnes le devis, du coup, que ça passe, je dis, putain, je peux me faire max de thunes, en fait.
Ah ben, et du coup, pourquoi t'as arrêté cette mission-là en particulier, parce que je sais que tu fais du freelance à côté en continu, mais quand t'as fini Oscaro, t'as fini aussi cette mission de freelance et t'as rejoint Weekend Desk, dont on va reparler, mais qu'est-ce qui t'a, j'allais dire, donné l'envie d'arrêter cette mission, mais qu'est-ce qui a fait que t'as fini cette mission?
Bah, c'est plus du coup le côté, entre guillemets, vrai CDI. J'entrais chez Weekend Desk, on m'avait fait un peu comprendre qu'il fallait s'investir, qu'il allait y avoir du taf. C'était un début de projet aussi, et effectivement ça s'est arrêté un peu naturellement, et je pense que ça a été la meilleure des choses, parce que j'aurais pas pu rentrer dans les missions internes aussi facilement. Okay. Et en réalité je ne fais plus de freelance sous cet aspect là je garde mon statut plus pour faire de la formation, en fait.
Je garde ça pour la fin.
Très bien.
Ça, je l'ai noté et on va en rediscuter. Du coup, Weekend Desk, plateforme de réservation d'expérience pour les voyages courts, c'est ça?
Exactement, c'est du week-end. Moi, j'aimais bien dire, c'est le mix entre Smartbox et Booking. En gros, tu bookes un hôtel, et tu as une activité en plus.
Oui, c'est plutôt bien écrit, oui, en fait, c'est ça. Ouais. Tu arrives en tant que product designer, c'est ça?
Exactement.
Tu es la première de l'équipe design?
Avec ce titre-là, oui. Il y a néanmoins, du coup, une UI designer en place depuis un moment.
D'accord. Et toi, du coup, quand tu arrives, c'est quoi ton rôle, tes missions?
Et ben alors, la petite histoire derrière ce job, c'est que donc pendant mon master, on a plein d'intervenants différents. Et à la fin de l'année, arrive enfin la notion sur vraiment les tests utilisateurs, comment tu processes ça, le protocole. Et on a Léa Mendez-Assua qui arrive avec du coup son acolyte PM de l'époque, Guillaume. Et je me rappelle qu'à 9h01, j'avais le bras en l'air parce que j'attendais ce cours depuis quasi plus d'un an. Et donc, évidemment, intervention au top, super bon souvenir de ça, de l'échange, du côté pratique, etc. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que Léa, je la retrouve pour un de mes examens qu'on appelait l'Oral Pro, où tu racontes un peu ta vie, pourquoi t'es arrivé dans cette formation, quels étaient tes objectifs, c'est quoi ton passé avant et comment tu vois la suite. Et Léa a été là pour cette soutenance. Donc on a eu l'occasion de se croiser déjà avant, je crois qu'on s'était recroisés à des meet-up. Et finalement, elle me dit, écoute, j'ai mon ancien manager, Seb Levaillant, du coup, qui rejoint du coup une nouvelle boîte et qui cherche un product designer, j'ai parlé de toi. S'il te contacte, vas-y, c'est le meilleur manager du monde. Ok, très bien, donc effectivement, il me contacte, on déjeune ensemble. Et à ce moment-là, du coup, effectivement, je cherche un taf pour la rentrée. Donc j'avais regardé différentes opportunités qui marchaient ou marchaient moins bien. Et donc, du coup, on avait pris surtout le temps de déjeuner ensemble pour le taf, en fait. Et ça, c'est une approche que j'aime bien. J'avais postulé à des boîtes, quand même. Et le fit se fait. Seb me vend bien le projet. Et puis, j'ai rejoint Weekend Desk comme ça. Okay. Et j'ai oublié ta question initiale.
Non,
en fait.
Aucun problème. La question, c'était du coup pour ton rôle et tes missions.
Yes. Et donc, du coup, il me dit, moi, je cherche un product designer. L'objectif, c'est de faire un peu migrer le mindset de la boîte. Je saurais pas comment le qualifier, mais aller plus dans le produit. Okay. Et voilà, donc on cherche un profil comme le tien. Je pense qu'il y avait une raison d'investissement, de coût aussi, hein, parce qu'il aurait pu sûrement prendre un profil beaucoup plus senior que moi. Et c'est parti. Donc effectivement, je suis product designer, mais je reste quand même plus attachée sur ce que je sais faire, à savoir l'UX, que l'UI. Et justement, donc je te parlais d'abstract avant. J'essaye de le pousser à un moment donné pour voir comment on peut se partager les fichiers Sketch. Parce qu'à l'époque, du coup, il n'y avait pas le cloud, en fait. J'ai réfléchi, mais ouais, il n'y avait pas. Non, oui, ça répondait à ça, en fait, ouais, abstract.
Non, à l'époque, tu avais deux trucs. Ça répondait au cloud et tu pouvais te partager entre différentes personnes qui avaient
Sketch. Versioning,
et le versioning. Ouais.
Alors, versioning, c'était un peu compliqué à gérer.
Ouais.
Mais bon, c'était ce que propose abstract. Et donc, voilà. Et en fait, le rôle commence par... En gros, lui, il est arrivé quelques mois plus tôt. Il a posé la vision produit.
Okay.
L'objectif, c'est de repimper Weekend Desk. Et ils partent sur une refonte de UX, UI et front-end. Donc, assez costaud.
Gros projet. Ouais.
Donc ça, il fallait le faire valider par les investisseurs. Donc, on part d'abord sur proposer du coup cette vision-là de manière un peu plus tangible. Et c'est assez marrant parce que je commence ce boulot-là en séminaire off-site avec des gens que je ne connais pas. Et je signe mon contrat en Seine-et-Marne, du coup, dans un coin où on était en workshop pendant 2 jours. C'est assez marrant. Et je retrouve mes collègues 2 semaines plus tard pour la date officielle de début de contrat. Et donc, du coup, ouais, c'était de poser un peu cette vision-là, la rendre tangible, faire un peu de motion, faire... du coup, un peu un showcase, faire valider ça. Ensuite, on est parti sur un POC, donc un POC quand même qu'on a exposé du coup à des testeurs. Et on est du coup dans cette phase-là très prospective, très innovation. Et en fait, ça va complètement changer après, parce qu'on va passer en mode prod, et en fait, on revient à la réalité de... Ben, en fait, on ne peut pas tout implémenter, le temps d'implémentation va être extrêmement long. Donc ouais, j'arrive en tant que product designer, mais finalement plus UX que UI. Et c'est aussi là aussi que vient ma passion des design systems, c'est qu'en fait moi niveau UI je suis pas du tout une star. Si je réutilise des trucs qui sont déjà faits ou que je fais et qu'on peut retravailler facilement, bah du coup je m'assieds là-dessus en fait.
Du coup ça s'est passé comment la mise en place du design system?
Alors ça c'était une épopée, une énorme épopée parce que du coup moi je me dis super, je rejoins une boîte avec une volonté d'aller dans cette dynamique produit. Moi je pitch le projet design system, mais on y met bien évidemment, on fera des design systems chez Weekend Desk. Donc je pousse un peu pour ça, mais l'adhérence n'est pas dingos.
Justement, la question que j'avais ensuite, c'est comment tu fais pour vendre le concept à la méthode, parce que là encore c'est...
Surtout que je suis hyper junior moi à ce moment-là, donc les arguments ils sont compliqués. Enfin, du coup, je les trouve pas. On est du coup, comme je te disais, dans cette phase un peu d'innovation où on te dit, bah non, mais tout est instable, ça sert à rien de le faire, on va changer demain. L'UI, on n'est pas sûr, on verra. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, quoi qu'il en soit, on peut quand même le poser et puis le changer par la suite. Mais
c'est le but d'ailleurs.
Oui.
Généralement.
Tu peux le faire. C'est possible. C'est pas simple. Même avec un design, c'est pas du tout simple. Mais tu peux le faire. Sauf que bah du coup, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres enjeux qui sont bien au-delà des miens. Donc sur cette phase-là de quelques mois, ça marche pas. On rentre plus en mode prod, ça adhère pas trop, mais dans les fichiers sketch à l'époque, on le pousse, on l'a, on se casse les dents évidemment, à plusieurs reprises, du refacto, on rechange de stratégie, etc. On a quand même un très bon contact du coup avec les tech front, donc on essaye de mettre des choses en place, au moins de communiquer, mais trouver du temps pour eux à se poser dessus, c'est pas jouable, enfin, c'est compliqué, donc il y a cet enjeu de temps. Le temps passe. Moi, je change de manager plein de fois à cause de plusieurs réorgs. Donc, j'avais un lead PM, ensuite j'ai Seb, ensuite j'ai qui. Du coup, je passe côté market à un moment donné. Donc là, on se dissocie finalement en fait des enjeux produits.
Ouais.
La tech est une autre direction encore. Donc, il y a 3 directions différentes. En termes d'objectifs, c'est pas évident. Faire passer l'enjeu du design system du coup à quelqu'un qui est au market, c'est pas évident. On y arrive un petit peu, on arrive à un moment donné à sacraliser, ça c'est vers la fin je crois, c'était 2019, oui c'était 2019, je crois une journée complète par semaine pour l'équipe design produit, donc on était 4 en tout, où on pose en fait vraiment...
Donc vous êtes passé de 2 à 4, hein, pardon.
Ouais, alors du coup, moi on est, je passe responsable d'équipe, ouais, donc je fais un recrutement avant de passer responsable, je fais un autre recrutement et du coup il y a 3 product designers plus moi côté product design.
Okay.
Et entre temps du coup je récupère aussi les brand designers côté market, enfin le, parce que du coup y a, ouais. Et on arrive du coup à se poser là-dessus et à repartir un peu des fondamentaux, et c'est pas évident parce qu'on patauge, parce qu'on essaye. Donc là, encore une fois, bon, y a un gros sujet Design System France qui arrive bien avant ça aussi. Et c'est là où moi, du coup, je vais chercher l'info à l'extérieur, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Audrey, que j'ai sollicité à plusieurs reprises, on avait, je sais plus à quel moment, fait du coup le workshop avec Design System France, j'y reviendrai sûrement après, sur la documentation. Donc là, on s'en inspire à fond, on capitalise à fond sur ce que les autres ont fait pour avancer vite. On se casse les dents, on fait des trucs qui marchent, on revient dessus, et on essaye quand même d'embarquer le produit et la tech. Et en gros, sur cette journée-là, à la fin, on fait une restite le soir en disant, voilà, on a avancé là-dessus, On va avoir besoin de vous à la tech pour du coup challenger ce qu'on fait. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça l'est pas? Le produit, soyez au courant. Et donc, on avait bossé. Moi, à ce moment-là, je voulais bosser un petit peu en OKR, en trimestre, pour se donner vraiment des échéances. La première roadmap du coup du trimestre, le premier, c'est je l'ai fait de manière beaucoup trop gourmande. Et le learning de ça, c'est OK, bon, bah, on est un peu à la ramasse. Maintenant, j'inclus les designers avec qui je bosse. Et aussi, un autre truc, c'est on va essayer de suivre le produit. Plutôt que de repartir de zéro, parce que nous, ça nous fait plaisir, entre guillemets. De quoi a besoin le produit? Et en fait, le truc qui revenait régulièrement, c'était les formulaires. Et le deuxième quarter, du coup, on le dédie à ça. Sauf qu'on arrive début 2020. On est dans le tourisme. On voit, nous, en Italie, que ça commence à pas être le feu. Et du coup, bah, en mars, on est sur le point de finir le deuxième quarter sur le design system, vraiment. Et le projet s'arrête parce que patatras, Covid, lockdown et compagnie.
Chouette. Avant qu'on parle justement de cette période-là, j'ai l'impression, en dehors du design system, aussi que tu kiffes mettre en place des process, faciliter le travail de tout le monde. Pour le design system, j'ai bien compris d'où ça venait. Pour le reste, d'où ça vient?
Pour le reste, c'est-à-dire le...
J'avais noté que tu faisais, par exemple, faire en sorte de partager la visibilité, les connaissances, essayer de mettre en place des briefs dans les équipes produits, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire?
Je dirais que c'est intrinsèque à ma personnalité, ouais. Et ça, on le retrouve justement avec... du coup, en arrière, comme je te disais, dès que j'étais à Bordeaux, du coup, j'ai allé à des events. Et à un moment donné, j'ai rejoint du coup des potes qui faisaient des events de grande qualité. Pour Bordeaux, c'était génial d'avoir ça. On remplissait un bar le lundi soir. Enfin, ils remplissaient un bar les lundis soirs, une fois par mois. Sauf qu'ils n'étaient pas réguliers. Et je leur ai dit, mais faites des trucs tous les mois. Enfin, posez la date, comme ça on se retrouve facilement et on n'oublie pas. Ils disaient, oui, mais on n'a pas assez de matière. Je dis, mais allez-y vous. Et puis, le temps que les gens prennent, après, on les catchera. Enfin, vous les catcherez. Et finalement, du coup, je les ai rejoints avec d'autres potes. Et c'était les Design and Beer Talks, initié par Luc et Noémie. Et en fait, du coup, moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est partager, en fait. C'est transmettre, c'est donner la connaissance. Et ça, du coup, donc, je l'ai fait quelques années à Bordeaux. Je suis montée à Paris. Pendant un an, je me suis laissé le temps de poser les pieds par terre. Quand j'étais en deuxième année de master, du coup, j'ai lancé l'antenne parisienne avec, du coup, une pote de Bordeaux qui nous suivait. On a lancé ça, on a fait quelques events. Et ensuite, on s'est arrêté parce qu'elle est partie à New York. On a essayé de remettre un truc avec d'autres potes, mais ça n'a pas trop marché. Et à ce moment-là, du coup, je ne sais plus dans quelles années on est, mais on est autour de 2017, donc j'ai rejoint Weekendass depuis quelques temps. Justement, j'ai cette problématique de « j'arrive pas à pousser le design stem ». Il y a une littérature formidable déjà en anglais. Je pose des questions sur des Slacks, on me répond avec des articles médiums que j'ai déjà vus 3 semaines auparavant. Je me dis merde, il me faut des gens qui ont fait le truc. Donc là, on commence à organiser des réunions un peu inter-entreprise. On avait fait ça avec Drivey à l'époque, grâce à Gaëtan, avec d'autres boîtes aussi, avec Blablacar. Et je me suis dit, bah en fait, là, c'est cool parce qu'on se partage des trucs, c'est très tangible par rapport aux presses qui sont faites à ce moment-là dans les meet-up, où on te dit, j'ai un design system, c'est cool, et salut. Ok, mais zéro learning, zéro fail, et ça, moi, ça me frustrait, mais de dingue. Et donc, je me dis, les gens que je rencontre, je vais les mettre sur un Slack, on va garder la connexion, on va continuer à discuter, mais je vais rajouter que les gens qui sont, que j'ai vraiment rencontrés. Donc, on discute un petit peu. Moi, quelques mois plus tard, j'ai de nouveau des problématiques chez Weekendask à l'époque sur justement l'enjeu de comment tu structures ta librairie Sketch à l'époque. Est-ce que tu l'organises par page? Est-ce que tu la fais par composant? Et au final, du coup, c'est des sujets où ça optimise de ouf ta consommation, ta visibilité des composants, etc. Et là, j'avais organisé un workshop avec des copains designers. On était, je crois, une dizaine. Soirée pizza invitée. C'était une table ronde, en fait. On racontait comment on faisait les choses. Et je me suis dit, ça en fait, c'est cool, mais il n'y a que moi qui en profite, enfin, en tout cas que les 10 personnes autour de la table. Et quelques mois plus tard, se lance DSF pour cette raison du coup de partager et de...
Design System France.
Design System France. Parce qu'il y avait de la pétence, il y avait de la curiosité. Les gens commençaient à connaître le Slack, ils disaient, je vais rentrer dedans. Ok, cool. Et en fait, moi, j'initiais en fait des sujets. Je me suis dit, c'est un peu con que je le garde que pour moi. En fait, ça va aider d'autres. Donc c'est meilleur que moi, il faut que j'aille les chercher, mais si moi je vais les chercher que pour moi, c'est dommage. Et clairement, je pense que c'est complètement intrinsèque à ma personnalité de me dire bah autant l'open sourcer en quelque sorte, quoi. Et pareil, du coup, dans une boîte où tu vois très vite que bah il y a des trucs qui tournent pas forcément, qui sont pas forcément accessibles, que c'est qu'une question de connexion ou de personne, et en fait si ça tu peux le craquer, bah, en fait tu vas plus loin, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'habite depuis toujours, quoi.
Très bien. Je pense qu'on pourra reparler un petit peu de Design System France tout à l'heure, mais je pense que t'as déjà bien présenté le projet. Tu l'as dit tout à l'heure, t'es devenu en charge de l'équipe design chez Weekendesk. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose pour toi, ce changement de product designer à head of design?
Ouais. Avec pas du tout d'humilité, je voyais ça comme l'aboutissement d'un parcours.
Ouais.
Et ça revient à j'aurais dû sûrement peut-être aller dans des équipes plus structurées pour grandir. Et je voyais en fait du coup cette progression comme bah c'est bon, j'ai le titre, très clairement. Avec du recul aujourd'hui, franchement, j'aurais fait mes 1000 autres manières de faire. Et du coup, en fait, c'est une structure dans laquelle c'est compliqué d'être designer, comme dans beaucoup de structures. Et en fait, je pensais que ça allait régler les problèmes qu'on avait en tant que product designer.
Okay.
Mais en fait, ça en a créé d'autres.
C'est-à-dire?
Ben, tu te rends compte que tout le monde n'est pas aligné. Que toi, t'es un peu la troisième roue du carrosse. Toi, le design, t'es la troisième, enfin, cinquième roue du carrosse plutôt. Troisième roue de la moto, peu importe. Et du coup, t'essayes de défendre du coup les enjeux design, les enjeux du coup de ton équipe. Mais en fait, c'est juste une tannée parce que, en plus, moi, j'étais finalement très très junior encore à ce moment-là. Les enjeux business, je les avais pas vraiment en tête. Donc, tu peux pas avoir un rapport de force équivalent. Surtout qu'à ce moment-là, du coup, il y avait plus de CPO. Cette partie produit était ownée par le CEO directement. Comme je te disais, du coup, moi, j'étais rattachée au market et la tech était une direction à part entière. Donc moi, je me retrouve avec à essayer d'avoir des interlocuteurs à droite à gauche, de raccrocher les wagons, mais c'est hyper complexe. Donc ça n'a pas été la partie la plus fun de ma carrière à ce moment-là, parce que t'as envie de faire bien pour ton équipe, t'as envie de faire bien par professionnalisme.
Ouais.
Mais il y a des trucs qui te dépassent et j'avais pas spécialement de mentor qui pouvait m'accompagner, pas forcément de manager qui pouvait comprendre nos enjeux, enjeux de designer j'entends. Ces questions de design system, elles ont mis aussi beaucoup de temps à cause de ça en fait. C'est pas un moment où je me suis sentie progresser professionnellement parce que j'avais pas de guide en fait. Enfin, encore une fois, il fallait que je cherche ailleurs. J'ai beaucoup sollicité plein de gens autour de moi. Pour essayer d'avoir des inputs, mais difficile de les rendre actionnables. Il y en a que j'ai pu actionner, mais okay. Quand t'es pas guidé, c'est un peu compliqué, quoi.
C'est ça qui t'a poussé à la fin à partir?
Entre autres, ouais, carrément, ouais. Après, c'était un contexte ouais. Particulier. Comme je te dis, j'ai changé de manager à plusieurs reprises. Je me sentais pas spécialement soutenue. On venait de passer, du coup, la période dans une boîte du tourisme avec des périodes de chômage partiel. Ça a été très, très, très dur. Ouais. Franchement, très dur.
Ouais, du coup, tous les projets sont bloqués, plus rien avance. Et...
Ouais, t'avais ça. Du coup, on avait initié le design system, mais après, on avait profité quand même du Covid pour passer sur Filma. Ça, c'était le point positif.
Comme beaucoup d'équipes, au final.
Exactement, ouais. Effectivement. On avait commencé, du coup, quelques mois plus tôt pour une partie playground. C'était beaucoup plus simple, justement, pour bosser sur le design system. On était à cheval entre les deux. Mais après, ouais, les projets, tu savais pas, ça bougeait. Tu savais pas. Enfin. Il y a eu les couvre-feux. Nous, on était vraiment en dents de scie, en fait. On changeait. Enfin, un mois, j'étais en chômage partiel à 80%, un autre mois à 20%. Et au bout d'un moment, c'était plus gérable, quoi.
Ok. Ce qui t'amène chez Penny Lane.
Ouais.
Qui est une solution tout en un pour gérer les finances et la comptabilité de son entreprise. Je reprends les pitchs de toutes les entreprises, c'est plus simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de secteur d'activité?
Alors de secteur, bah, l'offre déjà, ouais. Je dirais, enfin de manière très honnête. C'est vers fin 2020, du coup, que je me dis bon, l'histoire avec Weekendesk, elle s'arrête. C'est quoi la suite? Faut savoir que je me pose déjà la question depuis un moment. Design ops, design system, lead, mais il y a pas beaucoup d'offres là-dessus. Ouais. j'ai beau être assez connectée, je pense, à ce moment-là sur le marché par rapport à ça. Moi-même, je me sens pas hyper confiante non plus parce que finalement, j'ai monté un bébé design system mais je l'ai pas encore maintenu. J'ai pas fait tout le cycle de maintenance là-dessus, les enjeux qu'il y a derrière. Design ops, ça émerge tout juste. C'est pas encore très clair non plus. Il y a très peu de boîtes qui misent là-dessus. Il y avait le rôle, du coup, qui devait s'ouvrir chez Payfit, mais ça avait été suspendu. Parce que j'en avais parlé, du coup, à Léa quelques temps plus tôt. Et finalement, du coup, c'est regarder ce qui se passe. Et puis, tu te mets en recherche sur LinkedIn. Et là, tu te fais complètement contacté par un milliard de personnes. Et effectivement, du coup, il y a le TA de Penny Lane qui me contacte. C'est un rôle, du coup, de lead product designer. Je me dis, bah cool, moi, je vais me recentrer sur le produit. C'était trop d'être head of. Le management, ça coûte en fait, ça coûte beaucoup sur l'humain. Faut être bien capé, enfin c'est des batailles. Et moi, j'avais plus envie de les mener à ce moment-là, de cette envergure-là. Et du coup, bah je rentre en process. Et puis oui, la fintech c'est porteur. Enfin hein, clairement, là on en voit. À fond les ballons, et puis on ne veut pas se cacher, hein, en termes de rémunération, c'est quand même plutôt attractif par rapport à d'autres secteurs. Donc voilà.
J'ai pas trop de questions à te poser dessus, si ce n'est qu'une. T'es resté seulement 3 mois. Comment ça se fait ?
Pas fit, ça n'a pas fité. Je suis arrivé en tant que lead product designer. Il y avait déjà un designer en place, un autre qui arrivait en même temps que moi. Et je pense qu'on attendait un rôle de... J'avais plutôt pris la posture du coup du lead product designer qui accompagne et qui challenge plutôt qu'il produit. Okay. Sauf qu'à ce moment-là de la boîte, c'était visiblement pas leurs attentes.
Okay.
Et on m'a reproché d'être trop dans la collab et le process, ce qui par la suite du coup était un petit déclic. Et effectivement, et donc ça a duré 3 mois, mais ça a été 3 mois, il s'est passé plein de trucs. Optimisation de la collab entre PM et designer. On a mis en place Miro, ça a grave pris tout de suite, surtout à une période du coup de mi-confinement, mi-couvre-feu, où les équipes étaient un peu forcées d'être en remote. J'ai identifié directement l'enjeu de poser non pas un design system, mais plutôt un UI kit pour commencer, parce que bah, du coup on était, on va dire, 2,5 côté design, avec des devs à nourrir et des features à lancer. Avec l'ambition qu'ils ont, il fallait absolument poser ça, à mon sens, il fallait poser ça très tôt pour profiter de ça par la suite, quoi. Et on a fait appel du coup à une boîte en presta pour le faire. Moi, j'ai l'idée, le sujet, et l'objectif c'était d'impliquer la tech assez tôt pour que ça se transforme en design system par la suite.
Okay.
que le levier se fasse, mais ces initiatives là n'ont pas suffi, et on m'a remercié. Et du coup, ça m'a fait un gros coup de mou quand même. Ça n'avait pas été l'annonce la plus marrante à accueillir. Chômage. Ça fait des années que tu bosses, tu te retrouves au chômage avant l'été. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Tous mes potes qui me disent, ouais, mais vas-y, prends des vacances, fais-toi kiffer. Toi, t'es en PLS parce que tu dis, mais économiquement, en ce moment, c'est pas ouf. On ne sait pas trop de quoi demain est fait. Et finalement, l'été arrivant, effectivement, j'ai mis un peu en stand-by la recherche de taf. Et ça m'a permis de refocus sur DSF, relancer des sujets. Et à ce moment-là, du coup, de me dire, là, peut-être que maintenant, design ops et design system, ça a plus de sens. Ah oui, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, l'offre design ops chez Payfit s'était ouverte avant ma fin chez Penny Lane. Et j'avais pas osé postuler en me disant, j'ai commencé du coup un job, je vais pas m'arrêter. Finalement, je contacte Léa en mode, je suis dispo. Et elle me dit, pas de bol, on a quelqu'un dans le pipe et ça va sûrement se faire là, on va sûrement signer. Et là, j'étais dépité. Je me dis, merde, franchement, coup du sort, j'enchaîne, c'est l'enfer. Et je tente du coup d'approcher quelques boîtes pour des rôles design stem, mais ça fit pas trop. J'essaye de faire du freelance aussi. J'essaye. Je vois une annonce et je propose mes services, quoi. Et, euh, Et finalement, je contacte Luc Chaffard chez Agicap. Ils avaient sorti du coup leurs articles sur leur design system.
Ouais.
Et il y avait Mathéo qui avait écrit partie 1. Et donc à ce moment-là, on essayait un petit peu d'identifier avec Design System France un peu les ressources françaises dédiées au design system. C'est un projet qu'on a en background depuis un moment, toujours par release. Et je contacte Luc et je dis oui, bah coucou. On bosse sur la partie, enfin sur les articles. Est-ce que le 2 va sortir bientôt? Parce que du coup, on aimerait bien le référencer, le partager au sein de la commu. Et du coup, on engage la conversation comme ça. Et il me dit, ah bah tiens, je vois que t'es en recherche, tu cherches du taf. Je dis oui, je t'arrête tout de suite, mais moi, le product design ne m'intéresse plus. Là, ça, j'avais réussi à le formaliser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est design up slash design system. Il me dit, ah, bah écoute, on n'a pas encore ouvert le poste, mais ça nous intéresse. TOP pour discuter, et puis bah évidemment, et ça s'est lancé.
Super, merci pour la transition. J'ai déjà reçu Luc pour parler d'Agicap, quand je crois que c'est il y a plus d'un an et demi que je l'ai reçu dans le podcast. Donc à l'époque, on avait parlé de comment il est arrivé, toute l'orga de l'équipe qui a explosé depuis, on va en reparler toi et moi. Du coup, c'est cool parce que tu vas me faire une petite mise à jour d'Agicap. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est une solution pour gérer la trésorerie de son entreprise. Piloter la trésorerie, centraliser et payer les factures, relancer les clients. Voilà, j'ai le pitch du site internet. Avant qu'on parle vraiment d'Agicap, est-ce que tu veux bien m'expliquer pour toi ce que c'est qu'une design ops?
Alors, design ops, pour moi, c'est avant tout une discipline, c'est pas forcément un rôle.
D'accord.
C'est du coup tout ce qui est operation et ça va être. Alors, moi, comment j'aime l'expliquer, c'est se dire que t'as un ou des product designers dans ton équipe, et l'enjeu, c'est que leur processus product design ait le moins de friction possible pour qu'ils puissent investir au maximum au product design. Et donc, quand t'as un regard un peu plus business que j'ai réussi à forger avec, on va dire, ces dernières années, bah, du coup, le temps de product design, c'est investir sur le produit et donc faire la thune, quoi, tout simplement. Si du coup ton product designer passe pas, on va dire l'intégralité de son temps, j'extrapole hein, mais c'est un peu ça, à product designer, il y a de la perte. Donc c'est identifier du coup ce sur quoi il va y avoir la friction. Est-ce que c'est accéder à un outil? Est-ce que c'est accéder à une information? Est-ce que c'est être en relation avec des stakeholders? Est-ce que ça va être une question de formation? Est-ce qu'il manque d'une compétence à un endroit qu'on peut combler? Et donc quand tu capitalises sur ton équipe, bah en fait c'est du design ops de cette manière-là. Et tu nourris, tu enlèves les frictions, tu enlèves les petits bouts de sable dans l'engrenage pour capitaliser sur ton équipe.
Ok, j'ai une question assez directe. En quoi la mission, enfin le design ops est différent par exemple d'un head of design?
Très bonne question. Et ben du coup pour moi dans la notion de head of design, tu es responsable du design.
Ouais.
Tu embarques du coup, c'est un peu une casquette un peu compliquée finalement si on prend du recul parce que tu es reconnu comme le manager d'une équipe, donc en direct ou pas en direct, avec tes lieutenants ou sur tes IC. Tu as un enjeu du coup donc managérial, tu as un enjeu de stratégie, tu as un enjeu de vision et tu n'as pas beaucoup de place pour l'opérationnel. Enfin, en tout cas, pour manager du coup toutes ces petites frictions qu'il peut y avoir. En fait, ça dépend de la taille de ta structure évidemment ou de la partie produit dans laquelle tu es. On peut aussi se questionner sur quel est le rôle. Enfin, finalement, quand on découpe, tu as peut-être aussi le rôle de lead designer, le rôle de design manager. Comment ça s'intercoupe? Comment, qu'est-ce qui est la responsabilité de quoi? Et ça, c'est très propre à chaque organisation, chaque équipe. Il y a des boîtes pour lesquelles tu es lead et tu fais du management humain, mais aussi du coup opérationnel. D'autres tu splits comme en général les techs le font avec les EM, les engineering managers et les tech leads et donc tout ça c'est très différent. Après c'est en fonction de ton besoin finalement dans ta boîte, c'est sur quoi tu veux miser, où est-ce que t'en es niveau process, où est-ce que t'en es niveau besoin, quels vont être tes enjeux aujourd'hui, demain. C'est là où du coup tu vas répartir cette discipline design ops à travers les différents rôles que tu as. Ça peut aussi être sur toute une ribambelle et brochette d'IC qui ont cette appétence-là, qui kiffent aussi de faire des process, qui kiffent poser des choses, améliorer les outils, etc. C'est très variable.
Et du coup, comme t'en parles, toi, qu'est-ce qui est attendu de ta part quand t'arrives chez Agicap?
Et ben, on a co-construit ensemble avec Luc, du coup, ma fiche de poste. C'était mon case, en fait. La projection sur 3-6 mois, 1 an, à peu près.
D'accord.
Donc moi, j'avançais à vue, en fait. Je savais pas comment c'était en interne, donc j'étais partie sur ma connaissance à l'instant T. Mmh. Je pourrais plus dire exactement ce qu'il y avait, mais j'avais compris qu'ils recrutaient à fond. Enfin, j'avais fait 2-3 interviews de recrutement et j'avais compris que tout le monde parlait de ça. Donc, ok, c'était un enjeu capital à ce moment-là. Des enjeux de collab, évidemment, comme dans toutes les boîtes. Collab avec, du coup, les PM, collab avec la tech. Des choses à améliorer là-dessus. Du coup, on a fait le point quand je suis arrivée. Moi, je suis allée voir en fait tous les designers à ce moment-là. On était 6 ou 7, je crois.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est 13 en tout.
Ok.
Donc, je suis allée voir les designers et j'ai mis en place le Hello World. Donc, j'aurais dit salut, je me présente et présente-toi et dis-moi ce que tu sais du design ops. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui dans la boîte ? C'est quoi tes frictions ? Qu'est-ce qui marche bien ? Et c'est quoi ta note aujourd'hui, satisfaction d'être un product designer chez Agicap ? Et en gros, j'arrivais à sortir un peu des trends. C'était ma manière à moi de faire la discovery sur « Ok, c'est quoi les sujets un peu émergents de l'équipe ?» Et à ce moment-là, on avait aussi beaucoup d'enjeux du coup de recrutement. Donc j'ai beaucoup épaulé Luc là-dessus sur du coup les interviews, tout le process de recrutement. Bossé pas mal avec les TA aussi. Par rapport au pipe qu'on avait. Et aussi, in fine, une fois qu'on a converti nos prospects product designers, l'onboarding. Et ça prend pas mal de temps pour t'assurer que les personnes arrivent bien dans la boîte et les connaissances au bon moment. Il y avait des choses vraiment très, 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 très quali quand je suis arrivée dans chez Agicap. À tout niveau, au niveau corpo, au niveau produit, au niveau design, il y avait déjà vraiment une ribambelle de process, d'infos, de rituels mis en place, d'accompagnement. Donc ça, pour moi, ça m'a même posé question de « est-ce que je vais servir à quelque chose ?» Et au final, on a itéré, on a ajusté au fur et à mesure. Donc c'était majoritairement ça sur mes premiers mois.
Et en dehors du fait de quand tu es arrivé, tu as parlé à tous les designers, j'imagine que tu as fait peut-être la même chose avec les PM et les techs. Ma question étant plus large, c'est comment tu fais aujourd'hui pour identifier les frictions design dans l'entreprise ?
Alors ça, ça s'est pas fait au début, parce que j'étais hyper focus sur, on va dire, le recrutement, l'onboarding et garder quand même un pied dans l'équipe.
Est-ce que tu veux qu'on parle de ça d'abord, du coup ?
Comme tu veux. Mais lever les frictions par rapport à... Enfin, ouais, je vais finir... Enfin, je vais quand même te suivre là-dessus. C'est arrivé par la suite, en fait. C'est... Moi, ce que j'ai... Enfin, j'ai un concept en tête par rapport au design ops, c'est se dire que, du coup, c'est un peu, du coup, plein de cercles ensemble. Donc, t'as le premier qui est le designer tout seul. Dans l'équipe, du coup, t'as plusieurs designers, donc c'est comment ils interagissent entre eux.
Ouais.
Donc, ça fait différents segments. Donc, déjà, tu peux te retrouver avec plein de segments, même avec 2-3 personnes. Et après, tu vas avoir du coup, d'un côté, tout ce qui va être stakeholder interne. Donc, tu vas avoir en direct les PM et les techs. Mais tu vas avoir aussi, à plus large échelle, finalement, les CS, les sales, en tout cas dans les boîtes structurées en produits un peu Startup Nation. Tu vas avoir ce pendant-là. Et de l'autre côté, tu vas avoir du coup les users. Moi, j'aime bien, c'est un concept que j'ai en tête depuis quelques temps. Et donc du coup la prio pour moi en tant que design ops, c'est la question s'est posée d'ailleurs avant que je les rejoigne, c'est est-ce que j'allais être attaché à l'équipe product ops, donc produit ops, produit qui étant le gros département, ou est-ce que j'allais être attaché directement à l'équipe product design qui est intégrée au produit. Bon, moi je partais avec mon a priori de je vais être au design et je pense que je vais être plus efficace comme ça, et ça s'est fait comme ça. On n'a pas spécialement trop discuté ça, mais ça s'est fait naturellement. Et je pense que ça a vraiment un enjeu de ouf, parce que si tu vois pas concrètement, du coup, les rituels, le quotidien du coup des designers, tu peux pas agir vraiment dessus. Si t'es excentré de ça, tu traites ça comme des projets, en fait.
Ok, donc tu participes à tous les rituels des designers et...
Ce commun, oui. Après, je vais en shadow des fois sur des spécifiques qu'ils ont avec leur squad, leur tribe ou autre chose.
Okay.
Mais c'est plus ponctuel, ça dépend des sujets. Et donc, ta question, je crois que c'était les...
Comment tu fais pour récupérer les frictions, du coup ?
Voilà. En fait, ça se fait au fur et à mesure. En fait, tu vas... Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça va être une question de focus. Enfin, moi, je me suis aussi beaucoup appuyée sur Luc, sur en fait, c'est quoi les sujets aujourd'hui trendy, c'est quoi sur lesquels il faut miser. On avait co-créé aussi ensemble à ce moment-là, du coup, des roadmaps par rapport à ce qu'on avait identifié pour les les mettre en route. Aussi avoir une approche un petit peu analytique sur quels seraient les KPI qu'on pourrait suivre, sur du coup mon impact en tant que design ops, mais plus largement après design, mais on l'a pas trop abordé entre temps. Et en fait, du coup, la notion de friction avec les autres, elle arrive très rapidement au final. Enfin, quand il y en a, tu le sais vite, en fait, quand t'es proche du coup des designers. Et après, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pas être dans un huis clos design, mais de se connecter. Et en fait, je me suis connectée avec les techs via le design stem, les front-end. Et après, côté PM, plus du coup par... on va dire moins par les rituels, mais plus par du coup les bureaux, les events, le côté les verts, en fait, le social. Et après, avec d'autres stakeholders en fonction des sujets qui sont beaucoup plus larges que finalement le périmètre produit et tech.
Ok, ça marche. Tu as parlé d'un truc intéressant que j'avais noté aussi, c'est une fois que tu as récupéré les frictions, vous faites une des roadmaps. La question que je me posais, c'est un peu comment vous priorisez un peu cette roadmap, parce que comment vous savez quelle friction doit être adressée en premier. Et la deuxième question, c'est en fait comment vous assurez qu'elles sont bien adressées au fur et à mesure du temps ?
C'est une super question et j'ai pas de réponse absolue à ça. J'ai fait plein de tests. Pareil, j'ai essayé de bosser en quarter. On a, le premier quarter, j'avais fait j'ai essayé de mettre ça sur Notion. Du coup, ça nous permettait de pouvoir exposer ça du coup à l'équipe. Ensuite, j'étais partie sur une deuxième version, donc un peu en OKR. Donc objectif qui résulte, définir des KPI et situer les KPI, mais sur Notion en fait c'est pas hyper fluide. Ensuite, ce qui est cool, c'est que chez Agicap, Airtable est très très utilisé, Airtable okay. est très puissant. Ils ont sorti Interfaces entre temps, tu peux un peu monitorer certains éléments.
Okay.
Ce qui est génial avec Airtable aussi, c'est que tu peux avoir des formulaires, donc tu peux balancer ça à tes équipes sur n'importe quel sujet. Et finalement, voir ta donnée brute dans les tables, mais ensuite, du coup, l'analyser un peu différemment avec Interfaces. Ça, on était reparti sur, du coup, une autre roadmap un peu hybride. Ensuite, on avait aussi, du coup, fait en sorte, du coup, d'identifier par ces Hello World et par la suite d'autres points avec les équipes, les frictions principales, les lister et les faire upvoter par l'équipe pour les traiter. Parce que finalement, DesignOps, c'est un rôle support pour les designers. Du coup, il faut que tu fasses des trucs qui leur servent et il faut qu'ils le voient. C'est pas toujours très simple, du coup, leur montrer que ce que tu fais, ça a de la valeur. À proprement parler, dans l'immédiat, par rapport à leur day-to-day. Entre-temps, du coup, j'ai aussi essayé sur Miro, histoire de mieux exploser les idées. Mais j'ai pas encore trouvé de voie absolue. Mais on essaye quand même de suivre au max, quoi, parce que sinon, enfin, tu te perds et c'est même hyper frustrant, juste à titre personnel, parce que tu dis que tu inities des projets, mais tu les vois pas trop se réaliser. Donc, c'est en constante évolution, honnêtement. Oui. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir un peu des chiffres, quoi, un peu des KPI, pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, récolter du feedback qui soit positif ou moins positif. Et ça, du coup, on essaye ouais, d'itérer avec Airtable. On a des trucs pas mal en route. Et après, ça va finalement peut-être être moins macro, mais peut-être plus micro sur 2-3 sujets
okay.
qu'on va suivre pendant une trame avant de se lancer sur un autre sujet.
Ok, ça marche. Très clair. Tu vois d'autres... j'imagine tu discutes avec d'autres design ops pour savoir un peu comment eux font de leur côté ou...
Évidemment. Évidemment.
Le contraire m'a étonné.
Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, je disais, Payfit avait du coup trouvé chaussure à son pied. Et du coup, j'ai des potes qui bossent là-bas et qui m'ont dit ça y est, on a notre design ops qui arrive. Et donc, j'avais pas encore commencé mon rôle chez Agicap, que du coup, j'ai rencontré Zaliata qui venait de prendre le rôle du coup chez Payfit. Et donc, ça a été l'occasion de se rencontrer, c'est assez marrant. Et j'avais déjà fait initier, je crois, des rencontres avec d'autres personnes qui avaient déjà le rôle, enfin, qui étaient identifiées en tant que telles. Et in fine, avec Zaliata, on s'est dit, toi, t'as rencontré des gens, moi, j'ai rencontré des gens, viens, on met ces gens-là en commun. Et on a créé une mini commu Design Ops, donc je réplique à ce que
j'allais dire.
France. C'est une question de pattern. Et ce qui est génial, c'est que en fait, on a réussi à lancer. Bon, on avait fait une table ronde l'année dernière, du coup, que Zaliata avait animée. Et entre temps, du coup, on s'est lancé un Design Ops Monthly. Donc tous les mois, on se connecte, on se partage des sujets. Si on est chaud, on va deep dive en cluster. Et, Et puis voilà, ça tient ouais, depuis un an en fait. Donc oui, on se rencontre et c'est cool.
C'est ouvert à tout le monde ou c'est entre vous?
Bon, on est, en fait, du coup, on est, c'était une discussion LinkedIn en fait à la base.
Okay.
Du coup, sur Design System France, on a un channel aussi Design Ops, histoire bah, qu'il y a un endroit où parler. Je sais qu'il y a des gens qui veulent monter des communs, mais c'est des agences. C'est pas forcément les gens qui le font. Et du coup, bah, en fait, on fait rentrer les gens en par cooptation, encore une fois. Quoi. Moi, c'est un truc auquel je crois pas mal parce que ça permet d'être sûr qu'il y ait des gens intéressés qui soient dedans, en fait. C'est pas forcément les gens qui font, mais c'est des gens intéressés, qui vont me poser des questions. T'es pas obligé de montrer patte blanche ou de dire « Ah oui, je sais faire, j'ai 15 ans derrière moi d'XP, on s'en fout. » Mais le problème, du coup, des gros groupes ou des trucs très ouverts, c'est que, en fait, tu vas avoir que des posts un peu random et tu vas pas pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce qui est extrêmement frustrant quand t'es dans ce genre de discipline où, en fait, t'as un peu tout à débroussailler. Du design ops aux États-Unis et du design ops en France, c'est pas pareil. Je pense qu'on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes orgs, on a beaucoup de choses qui varient.
Ouais.
Donc pouvoir parler avec des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Mais en gros, contactez-nous et on vous fera rentrer dans notre discussion LinkedIn, qu'on est en train de migrer un petit peu sur Slack quand même.
Je mettrai des liens dans la description
yes.
pour les gens qui que ça intéresse. Si on repart, en dehors de toute cette partie friction, etc., j'ai noté que tu avais deux grosses parties dans ton travail, c'est la partie growth et la partie design system. Design system, rien d'étonnant, mais on en reparlera tout à l'heure. Sur la partie growth, il y avait vraiment, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est onboarding, c'est faire grandir les gens, etc. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu, du coup, un peu comment ça se passe, parce que j'ai noté que l'onboarding, c'était pas que pour les designers, c'était un peu pour le produit en général, comment ça se passe, pourquoi tu le fais, comment tu t'y prends, parce que c'est toujours un peu... Quand on parle d'onboarding, par exemple, il y a toujours la question de est-ce qu'on en montre trop, pas assez, comment ça se passe, comment toi tu...
Alors du coup, la croissance.
Oui, c'est vrai, c'est ça le mot français.
Oui, c'est... Alors du coup, t'as ton design... Alors, il y a un autre concept que j'ai en tête... C'est le cycle de vie du product designer dans une entreprise.
D'accord.
En gros, ce truc-là, il commence à partir du moment où une boîte décide de recruter. Elle va définir sa fiche de poste, sa fiche de poste, discuter avec les TA si on a, chasser sur LinkedIn, ouvrir la fiche de poste, etc. T'as les entretiens, la personne, du coup, est OP pour te rejoindre, c'est génial. Et à partir de là, du coup, tout s'enclenche. Donc, il y a la partie admin, RH, etc. Et après, du coup, opérationnellement, on va falloir l'accueillir. Donc t'as cette onboarding qui arrive. Donc quand je suis arrivée chez Agicap, il y avait vraiment plein de choses qui étaient bien mises en place. Moi j'ai affiné, j'ai fait sortir du coup quelques éléments qui étaient dans le tronc commun produit pour mettre du spécifique product design pour qu'on puisse rentrer un peu plus en détail, qu'on sacralise des choses qui n'étaient pas forcément sacralisées à ce moment-là. Il y avait déjà un découpage par semaine très très carré. Et ce que j'ai fait entre-temps, du coup, c'était un peu des milestones, c'est « Salut, je me présente », donc le principe du Hello World, donc d'où tu viens, qui tu es pour... Déjà, en fait, c'est un temps qu'on prend jamais finalement en équipe de faire un peu ce rollback, enfin ce point global. Donc moi, ça m'a permis d'identifier plein de trucs géniaux dans les profils qu'on a accueillis, du coup, depuis que je suis arrivée. Tu dis « Ah bah tiens, cette personne sait faire ça, on va la connecter avec l'autre là-bas qui, du coup, a envie d'apprendre ça ». Ou qui a plus de difficultés. Ah tiens, ce profil-là peut être intéressant pour ça, etc. Et du coup, t'as un peu un rôle de connecteur. Enfin, en tout cas, moi, je me perçois comme ça. Discuter ensemble, vous allez vous dire des trucs géniaux. Donc, ce petit point un peu d'entrée. Et puis, du coup, par rapport à l'onboarding, un point un peu plus tard. Donc, en fait, t'as plusieurs semaines d'onboarding. Elles vont évidemment pas au même rythme et pas à la même intensité. Et à partir d'un moment où on estime être sur un rythme de croisière, là, du coup, je refais un point. Comment ça s'est passé ton onboarding? C'était quoi les trucs cool? C'était quoi les trucs moins cool? Qu'est-ce que tu proposes? Et ça nous a permis d'itérer pas mal sur plein de trucs. De rajouter des petites formations, d'en enlever un moment pour les mettre plus tard.
Okay.
Par exemple, du coup, sur le product analytics, on se rend compte que la troisième semaine, t'es trop dans le jus encore de tout découvrir. T'as pas encore vraiment assez de connaissances pour vraiment en avoir besoin. Ça a plus de sens quand tu, 2-3 semaines plus tard, quand tu commences à te dire « Attends, mais mes décisions, je veux les prendre de manière un peu plus rationnelle. » Donc, c'est ce genre d'ajustement. Et donc, dans ce life cycle, t'as l'onboarding, puis après t'es sur finalement un rythme de croisière, tu vas avoir des besoins de formation, envie de progresser, avoir envie du coup de te projeter un petit peu. Donc là il y a d'autres enjeux du coup, career path, skill mapping, etc. Comment du coup tu fais de la formation, donc qu'elle soit interne ou externe. Et un truc dont on parle très peu, c'est l'offboarding aussi. Comment tu fais pour que la connaissance produit, la connaissance product design, bah déjà en amont, elles soient partagées au max. Donc on est toujours sur cette notion de partage d'information pour que ton offboarding se passe de la manière la plus smooth possible. Autant pour la personne qui quitte la boîte que pour la boîte et l'équipe qui du coup est autour de cette personne.
Et je te remercie puisque c'est tout le sujet dont on va parler ensuite. T'as parlé du career path, de la façon de faire évoluer les personnes, trouver la bonne grille d'évaluation. Comment tu fais ça? J'ai bien compris que tu avais bossé avec Luc dessus, mais comment on fait évoluer un career path? Comment on y réfléchit? Est-ce que, pareil, tu fais des retours un peu de savoir si ça marche, ça marche pas? Comment tu le fais
évoluer? C'est hyper complexe, ce sujet. C'est un sujet qu'on a initié il y a quelques temps et il est pas fini, quoi. Enfin,
c'est en continu.
Enfin là du coup comment je fais, moi je fais toujours la même démarche, hein, c'est je vais voir les autres et je me renseigne et du coup c'est bouffer de la littérature, des articles, etc. Mmh. Bon, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses franchement accessibles et activables à mon sens, du coup même en anglais. Bon, je suis pas rentrée non plus dans des bouquins hyper complexes, mais spécifiquement au product design du coup t'as pas forcément des trucs, enfin c'est hyper spécifique encore une fois, ouais, par rapport aux boîtes. Je pense qu'on n'est pas encore sur un... Même si notre profession, du coup, en 10, 15, 20 ans, a beaucoup évolué, a commencé à se stabiliser pas mal, à être beaucoup plus présente dans les structures, on est quand même un métier émergent par rapport à plein d'autres métiers, quoi.
Ouais. Bon,
même du tertiaire, en fait. Bêtement comptable, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Tu connais le carrière passe du comptable. Pour le career path du product designer, il y a tellement de variables différentes qui sont globales à l'environnement, plus à la boîte, plus du coup aux personnes, etc. Donc comment on fait? Du coup je me renseigne à droite à gauche. En interne du coup ça avait déjà été initié par d'autres services. Donc récolter le feedback, voir leur approche, voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, faire des compromis entre toi, ce que tu connais de ton équipe et tu sais ce qui va pouvoir être possible ou pas. En tout cas en étape 1, 2, 3, 4. Et après discuter avec les copains dans d'autres boîtes, hein. Clairement ça serait con de pas s'appuyer là-dessus et de recommencer de zéro.
Ah, bien sûr.
C'est pas le but. Donc ces sujets-là, ouais, c'est pas les sujets les plus évidents.
Ouais.
Ça touche à l'humain, à l'évolution, c'est il y a des attentes, il y a énormément d'attentes aussi, hein, par rapport à ça.
C'est pour ça que je te pose aussi la question, parce que c'est quelque chose qui, je l'ai vécu personnellement aussi, où des fois tu t'en as besoin pour pouvoir te projeter et c'est compliqué à faire.
Clairement. Donc pour ces sujets-là, ouais, du coup, comment on fait? On fait comme ça, on avance petit à petit. Il y a un truc quand même qu'on fait pas mal finalement, c'est bêta-tester sur des projets. Du coup, on sait que ça sert à rien de lancer un... Enfin, on implique vachement l'équipe.
Ouais.
Alors pas forcément tout le monde en même temps, parce que sinon, ben, c'est un peu compliqué, ça fait quand même beaucoup de choses à traiter. Mais du coup, on fait des bêta-tests sur des sujets X et Y. On lance des task force en fait, tout simplement. Et c'est le cas sur du coup le KR Pass. On sollicite du coup des gens dans l'équipe et on leur dit bon bah voilà, on avance là-dessus. Venez, on co-crée. À quoi vous pensez-vous? Ok, bon bah on le met en place. Est-ce que ça vous paraît ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelles sont vos attentes dessus? Puis on avance comme ça petit à petit. Puis après on le confronte. Et en fait c'est différentes étapes à chaque fois, quoi. C'est un peu un mix entre du être chef de projet, vraiment être en mode projet, et du produit. Parce qu'en fait, ton produit, c'est ton équipe, mais tu lances bah, des features, des projets. Enfin, c'est très lié. Enfin, ouais. Quand t'es dans le milieu du produit, finalement, tu te raccroches à ce que tu connais comme Bitodo et t'avances comme ça.
Tu fais ça aussi en coopération avec les RH, ou c'est plus quelque chose qui est entre vous? C'est toujours une question que j'ai eue sur le career path. Tu vois, t'as des équipes qui le font entre elles parce que ça les aide, et puis t'as des boîtes où en fait ça va être mis au niveau de la boîte et donc les RH s'intègrent dedans.
Ça se fait en parallèle en fait. C'est pareil, encore une fois, c'est des questions de structure et de boîte, de besoins en fait. Tu vas pas lancer un career path quand t'es une startup de 10 personnes et t'en as clairement besoin quand t'es une boîte d'un groupe de 10 000 personnes. Et en fait, c'est répondre à des enjeux clairement de rétention, de projection. des équipes. Donc tu t'y mets quand le besoin arrive, en fait. Et par rapport au RH, nous, on a besoin pour avancer. Mmh. Eux, ils en ont besoin aussi, mais pour un prisme beaucoup plus large. Et du coup, il y a des discussions qui se font, mais on n'est pas encore à le construire ensemble, en tout cas pas aujourd'hui. Alors certaines équipes, oui, mais en fait, c'est pareil, ils ont un cran d'avance, en fait. Et tu peux pas, du coup, faire un KR pass, en tout cas pas à mon sens. Enfin, tu peux avoir un socle générique, mais après, tu vas avoir un aspect métier qui doit être fabriqué, à mon sens, par, du coup, les équipes concernées.
Et pour savoir de quoi tu parles.
Exactement.
Pour éviter de te retrouver à dire product designer, c'était faire du graphisme pour le marketing.
Exactement, entre autres. Et effectivement, du coup...
Du coup, je comprends bien toute cette partie career path. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de tout ce qui est partie formation, donc où en interne, chacun s'aide à se faire monter, tu trouves les forces et les faiblesses de chacun. Et tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose dans lequel on parle très peu, mais c'est l'offboarding, le partage de connaissances avant que la personne parte. Du coup, deux questions. Comment ça se passe, le partage de connaissances? Et comment ça se passe, l'offboarding?
Pour le partage de connaissances, alors, il n'y a pas que moi qui identifie ça. On a monté un peu une leadership team design avec deux lead product designers, une manager et du coup Luc. Et ça, c'est un truc vraiment trop cool parce qu'on a vraiment créé un échange tous ensemble où on se partage des inputs et du coup, on arrive à déceler et à se proposer des idées pour. Et à partir de là, du coup, on peut se dire, bah tiens, moi je prends ce sujet-là, moi je prends celui-ci, tiens, moi je peux agir là-dessus, sur l'opérationnel, tiens, je peux accompagner, sur ce cadrage de ça, je peux faire ça. Et après, pour le partage de connaissances, ça c'est un truc qui a été fait dès le début dans l'équipe, quand Luc est arrivé, avec du coup les premiers designers, et ça c'est un truc qu'on remarque direct quand on arrive dans l'équipe, c'est que déjà, c'est une super équipe. C'est des humains géniaux, c'est des belles personnes, c'est des gens avec qui t'as envie de bosser, t'as envie d'être en fait, tu passes des super moments, intellectuellement c'est riche, et à partir de là, ça franchement c'est un pilier clairement, enfin, quand tu recrutes des gens qui sont agréables, t'as envie d'aller vers eux, s'ils le sont pas, t'as pas envie. Et ça clairement moi ça m'a fait un vrai truc quand je suis arrivée dans cette équipe. Et du coup, t'as envie, par défaut, du coup, de partager. T'as envie de recevoir aussi. Et il y avait déjà, comme je disais, du coup, des choses qui avaient bien été faites en amont. Donc, le pairing, clairement, c'est un des piliers forts, du coup, de la collab design chez Agicap. La collab, justement, en tant que telle, où du coup, tu sollicites de l'aide de quelqu'un. Et après, du coup, les rituels qui sont notamment design critique, où tu vas avancer avec tes pairs. Et y a souvent des sujets qui pop et on se dit bon bah go, on se met dessus. Et en tout cas, encore cette semaine, il y a 2-3 sujets qui ont été droppés et du coup il va y avoir un investissement collectif de plusieurs personnes qui vont avancer là-dessus, qui vont débroussailler les sujets et qui vont sortir quelque chose ensemble. Ça c'est génial.
Et du coup, c'est ça qui vous permet ensuite, lors de l'offboarding, de pouvoir accompagner les gens et de se dire tout est ok ou...
Pendant l'onboarding ?
L'offboarding.
Ouais, après, heureusement, on n'a pas eu beaucoup d'onboarding. En vrai, on a, ouais, puis de toute manière, il y a tout, de manière générale, en termes de produits, il y a quand même pas mal de process. Il y a beaucoup de choses qui sont, comme une culture de l'écrit assez forte. Okay. La structuration des fichiers Figma aussi fait que, du coup, normalement, tu passes un fichier à l'autre, tu t'y retrouves, tu vois de quel sujet c'est connecté. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas. On s'assure quand même de faire une transmission s'il y a quelqu'un qui part, que les sujets soient identifiés, listés, discutés avec le PM aussi, pour qu'on les perde pas. Et après, c'est aussi plutôt pourquoi ça s'est pas bien passé, pourquoi tu pars, et qu'est-ce qu'on en retire, et qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois, même si on n'a pas pu du coup agir au bon moment pour cette personne.
Okay, donc dans cette politique de reprendre du feedback et de continuer.
Complètement.
Très bien.
Complètement.
Dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, et tu viens d'en parler un peu, c'est Figma et donc le design system. Toi, quand tu as rejoint l'équipe, du coup, le design system existait déjà, puisque c'est Mathéo qui a bossé dessus. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui, entre guillemets, t'es emparé du leadership du design system, ou chacun vit un peu
Alors, quand je suis arrivé, le design system d'Agicap, donc Flipper, notre petit dauphin, a été créé par Luc quand il est arrivé du coup en avril 2020. À ce moment-là, Luc est premier product designer. Il n'a pas encore son rôle de head of, comme il en parlait dans le podcast. Et du coup, il se base sur une lib pour avancer, parce qu'il y avait déjà des enjeux assez forts. Côté tech, du coup, ils initient une librairie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas sur React, on est sur Angular. Donc, ils initient une lib. Ça cohabite un petit peu. Enfin, du coup, ça se nourrit un peu l'un l'autre. Et du coup, l'année dernière, quand moi, j'arrive, on a plusieurs fichiers Figma, dont un avec les composants, un avec les couleurs. Voilà, une segmentation un peu comme ça par fichier, qui sont du coup des librairies. Tous les designers contribuent dessus à la volée. Et à ce moment-là, c'est possible parce que quand moi j'arrive, je suis, je crois, la sixième personne ou septième personne de l'équipe design. Donc, on a finalement pas grand monde en quelque sorte. C'est assez organique. Sauf qu'en l'espace de 3-4 mois, on double ce chiffre. Et on se retrouve du coup sur Figma avec des. Quand tu veux publier la librairie, tu te retrouves avec plein de changes, mais personne ne touche à ça. Donc là, on dit, OK, si on publie, est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on publie tout? Parce qu'on dit, on force et on verra ce qui se passe demain, si ça pète ou pas. Mais c'était pas hyper safe. Entre-temps, moi, j'essaie de me rapprocher de la tech pour identifier qui gère quoi, comment c'est géré, comprendre le framework, Angular, moi, je découvre. Et donc là, on identifie du coup la personne qui va être ma co-lead sur le DS. Et finalement, du coup, début d'année, là, 2022, on prend la décision de monter une task force design, product design, sur le design stem.
Okay.
Pour le faire évoluer. Et du coup, on coupe les accès de contribution par défaut et on met en place, du coup, un playground. Donc, on ne pouvait pas, du coup, juste couper le cordon comme ça, sachant que c'était très itératif jusqu'à présent. On met en place le playground. En gros, c'est un fichier Figma où tu peux crafter, du coup, tes idées dedans. Et du coup, la task force va s'assurer, du coup, en mode gardien du temple, que c'est systémisable pour pas créer de la dette, en fait. Alors, ça a, du coup, la conséquence que la contribution ne se fait plus de manière aussi fluide. À ce moment-là, on n'a pas de process très clair sur comment on pallie à ça. Ça crée de la frustration, ça crée de la friction. Et en fait, nous, petite task force design stem côté design, on n'a juste pas du tout les ressources pour assurer toute la maintenance. Donc on mène quand même des projets du coup de refonte de certains éléments, etc., qui du coup avaient pas mal de friction, mais notre vélocité est quand même pas dingue. Côté tech, c'est un peu plus flou à ce moment-là. C'est ouvert, mais c'est pas ouvert. C'est-à-dire que en gros, la lib, si t'as les droits sur repo, ben c'est open bar, tu peux pusher des propositions d'edit. Mais si t'as pas accès au repo parce que t'as pas été onboardé, ben en fait, y a pas accès. Donc je me retrouve avec des devs qui viennent me voir, oui salut, je voudrais avoir accès au repo. Bah ouais, super, mais moi déjà je gère pas ça. Et il me semblait que c'était accessible. Et donc du coup, au fur et à mesure, du coup, le temps passe. Effectivement, j'ai pris leadership sur du coup ça, mais finalement, là aujourd'hui, c'est quasi un rôle de PM en fait, enfin un design system manager. Ces sujets de collab du coup et de contrib, on les a eu de ouf il y a quelques mois. On s'est dit bon bah là en fait, on change un peu de périmètre en termes des gens qui sont impliqués dans la task force. Et comment on fait en fait en ayant si peu de temps accordé au design system pour être quand même véloce? Bah en fait, faut s'appuyer sur les gens, faut faire de la contribution. Et on s'est dit, bon ben, il faut un peu clarifier les choses histoire que ce soit pas à la volée en fonction de la tête du client. Et on a enfin sorti une version de ça du coup début septembre. Et là, pareil, on est en bêta test. Et on essaye de voir comment on peut embarquer les gens. Sauf que l'enjeu derrière, c'est ben moi, je bosse sur le produit. J'ai besoin de mon composant et ben du coup, je le bosse en même temps que ma feature. Mais je veux que ce soit design stem pour mon dev après. Sauf que ça, en fait, temporellement, tu peux pas. Et ça, c'est des grosses frictions qu'on a, en fait. On n'a pas trouvé de solution à ça pour l'instant. Je parle beaucoup, du coup, avec Jérôme chez Docto, qui a bien avancé ce sujet de contribution aussi. Et donc, voilà, on itère. On itère là-dessus. On essaye de simplifier les choses, mais en fait, c'est hyper complexe. Parce qu'un design stem, c'est un produit à part. Parce que tu peux pas faire n'importe quoi avec, parce que si nous on accepte en tant que owner, que responsable du DS, de mettre entre guillemets tout et n'importe quoi, si ce truc là il est merdique, bah c'est nous qui devons le maintenir. Et on a déjà pas suffisamment de temps de travail sur ça, donc faut maîtriser du coup tout ce qui rentre, y discuter, Et après, il y a un gros enjeu de dire est-ce que ça a vocation à être systémisé ? Donc ça revient au fondement du coup du design system de OK, est-ce que modifier cet élément-là, ça a du sens pour tout le monde ? C'est cool que tu vas y proposer, merci, gardez les gens engagés. Mais derrière, du coup, en fait, ça ne concerne que ta squad. Ça ne concerne que ton petit périmètre produit. Et on ne peut pas encore se baser sur peut-être que ça servira demain, parce qu'en fait, il faut que ce soit documenté, il faut qu'on sache à peu près ce que.
Du coup, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes encore dans la recherche du système idéal pour vous. Pour le design system, ça marche, mais il y a encore des améliorations à faire.
Ouais, carrément. Mais c'est génial. Enfin, c'est le moment le plus complicado, parce que c'est la maintenance, en fait. C'est très, très, très simple de lancer un UI kit, de lancer, du coup, un peu de doc sur des éléments génériques, parce que tout le monde a les mêmes, ou quasi. Et du coup, fondamentalement, ça va être la même chose. Mais une fois que tu passes cette étape-là et que tu as une communauté derrière qui prend pour acquis la présence du design system, autant côté tech que côté design, là, tes challenges, ils sont vachement plus larges, quoi. Enfin, c'est OK, comment je les garde engagés, comment je récolte du feedback, comment, en fait, je push un mindset product dans mon design system qui est un outil interne que personne ne paye pour ça, en fait. Et ouais, c'est un vrai challenge. Ouais.
Vous êtes combien dessus, du coup, il y a toi et une tech, c'est ça ?
En lead, ouais, mais au final, on est. Donc, nous, on co-lead ensemble le design system,
ouais,
avec Isa. Et derrière, on a monté une petite équipe de tech. Donc, ce qui est assez cool, c'est qu'ils sont. Du coup, ils sont quatre en tout et ils sont à travers, du coup, les différentes architectures produits, du coup, d'Agicap. Donc, ça, c'est bien pour communiquer, pour répandre les infos, etc., pour voir ce qui se passe, pour avoir le côté terrain, en fait, qui est un peu primordial. Et côté design, on est trois en tout. Donc, avec moi, avec deux autres designers de l'équipe, Erwan et Nico, et on essaye aussi de couvrir un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir du coup à travers les produits Agicap, mais côté design. Donc en tout, on est 7, mais en part-time.
Ok. Mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous avez aussi, en dehors de l'application web, vous avez des applications mobiles.
Ouais.
Donc du coup, vous devez gérer plusieurs design systems.
À l'heure actuelle, non. On est focus que sur le web.
D'accord.
Qui est un enjeu à part entière déjà.
Oui, j'imagine.
Non, on a une équipe mobile plutôt agile, du coup. Donc, ils arrivent à avancer en autonomie et il y a eu des bonnes bases. Donc, on se focus plus sur le web.
Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu disais que ça faisait un an que tu étais chez Agicap. Selon toi, quelle est la chose que tu as mis en place qui a le plus aidé l'équipe ?
Mes blagues.
Ah, je le prends.
Waouh.
Elle est pas simple, celle-là.
Non, elle est même un peu compliquée. C'est difficile parce qu'en fait, ton but, c'est d'avancer, d'aider l'équipe, mais dans un contexte où en très peu de temps, tu passes d'une petite équipe à une équipe de quasi 15 personnes. Et donc, tu as au début de la flexibilité. Tu fais un peu... c'est fluide. Sauf que ça grossit, toi t'arrives entre temps. Et du coup, par définition, tu dois mettre des process, sinon c'est le zbeul et tout le monde a envie de consistance, mais il faut investir dans la consistance, par exemple. Tout le monde a envie d'aller vite, mais pour aller vite, c'est au détriment de certaines autres choses. Donc du coup, t'arrives avec des process et c'est pas. Bah justement, on en présente souvent avec les équipes design stem ou autres. Et à chaque fois, on présente un truc et ça, tu vois pas l'enjaillement sur la tête des gens, quoi. Et on se le dit à chaque fois, on se débrief, on se dit bon, t'en penses quoi ? Bon, comme à chaque fois, on présente un truc, faut attendre que ça prenne. Mmh. Et donc voilà. Mais du coup, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'en fait, du coup, mon emploi du temps est très riche aussi, donc il se passe plein de trucs ? T'aurais dû me poser cette question avant pour que je prépare. Un élément.
Pas de problème. Et du coup, je vais t'en poser une autre. J'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de sujets. Et je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément un sujet qui ait beaucoup aidé l'équipe ou c'est une multitude de sujets. Par contre, pour l'année à venir, quels sont les gros sujets sur lesquels tu voudrais travailler et sur lesquels tu vas travailler ?
Alors, clairement, sans rougir, du coup, notre design system, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à poser, à clarifier, que ce soit sur la visibilité, la connaissance. Ensuite, sur ce qu'il est en tant que tel, côté design, côté tech aussi. Apporter de la vélocité à ça pour justement montrer que ça apporte de la valeur et que c'est cool. Enfin, c'est déjà le cas, mais on va dire un peu redorer son blason, son emoji dauphin. Et après, sur Design Ops, c'est, on va dire, les rituels et arriver à maintenir ce qu'on met en place, en fait. Parce qu'on est très enjaillé par... on a le besoin, on l'identifie, on sait qu'il faut y aller. Et parfois, ça se fait un peu au détriment de choses qu'on avait déjà posées. C'est vraiment, du coup, poser le socle et s'appuyer dessus, en fait. Ça, c'est un enjeu que je trouve assez fort. Et qu'on puisse être serein là-dessus et pouvoir adopter des nouveaux sujets mais et les inscrire dedans, en fait. Et que ce soit fluide, en fait. Enfin, c'est fluidifié. Garder le cap qu'on a en termes de collab et tout, de mindset de l'équipe. Et ouais. Alors finalement, c'est pas du scale en tant que tel, mais c'est assainir, on va dire. Enfin, c'est pas assainir parce que c'est pas malsain, mais...
Consolider ?
Ouais, consolider, ouais. Consolider bah, les deux, en fait. Le design ops au service de l'équipe et le DS, ouais.
Ça marche. J'ai une dernière question. Celle-ci, en fonction des invités les plus ou moins durs, c'est est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, que j'ai oublié d'aborder, ou une question que tu aurais voulu que je te pose ?
Comme j'en ai évoqué à plusieurs reprises, du coup, Design System France, et ça, j'aurais bien voulu en parler davantage.
Je t'en prie.
Parce que du coup, donc, j'ai créé cette communauté par besoin. Besoin du coup d'apprendre des autres à un moment donné où du coup cette connaissance n'était pas forcément accessible, soit dans le détail en anglais, soit juste présente en France. Et ça a été un peu un tournant parce que c'est comme tu l'as remarqué, du coup, c'est ce qui m'anime, c'est le partage, c'est apprendre des autres, etc. Ça a vraiment été un tournant. Et du coup, j'ai créé cette communauté pour m'aider moi, mais pour aider les autres aussi.
J'ai bien compris pourquoi tu l'as créé, ce que tu en retires, etc. Aujourd'hui, vu que tu l'as créé en 2018 et qu'on est en 2022, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que, enfin, tu vois, en 2018, le design system, c'était un sujet naissant, c'était difficile de le vendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, dès que tu vas dans une boîte, tout le monde a compris ce que c'était, tout le monde a compris qu'il fallait pour aller beaucoup plus vite parce que ça coûtait moins cher, il n'y a plus besoin de se battre dessus. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la suite ?
La suite, du coup, pour DSF, c'est de se maintenir. Pour Design System France, c'est de continuer à faire nos events en présentiel et de les capter pour les partager du coup au reste de la communauté francophone. Avec le confinement, on a remarqué que, en fait, s'il n'y avait pas qu'à Paris qu'on s'intéressait à ça, évidemment, et qu'on avait des gens qui nous suivaient au-delà. Donc ça, c'était assez ouf à voir. Donc continuer nos events, mais en misant sur la qualité plutôt que la fréquence. Ça, j'avais réussi à le faire au début, de faire 10 events en un an, je crois, un truc dans le genre, mais en fait, c'est un taf de ouf. C'était au moment où j'avais arrêté le freelance, justement.
Puis je trouve que aussi, quand tu commences à développer un skill, ou en tout cas à le présenter, c'est facile de faire beaucoup d'événements rapidement, puisqu'en fait, tu as beaucoup d'éducation à faire.
Oui, puis c'est des patterns que tu répètes, effectivement. Enfin, tu t'identifies ta problématique, les speakers, hop. Et puis à ce moment-là, on les accompagnait pas trop. Je leur disais, viens, on parle de ça, tac, 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 fais ta presse, etc. Et on a quand même pris un petit tournant là-dessus, on a un peu changé la donne là-dessus. Aujourd'hui, quand on a déjà des gens qui viennent nous proposer des talks spontanément, il y en a qu'on va chercher, et on s'est bien mis en tête qu'on allait répondre à une problématique. Donc on s'est un peu fait notre framework de, on fait 1, 2, 3 pré-calls avant de lancer vraiment la problématique, on pré-cadre, on fait parler à la personne, etc. On identifie qu'est-ce qui peut avoir de la valeur par rapport à ce que nous on observe à travers les questions de la communauté, les attentes, etc. Et à partir de là, on lance la préparation de l'event. On va rester à côté, on va la bosser ensemble, on va la répéter ensemble dans certains cas. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'on va préparer du coup l'animation de la communauté, que ce soit online ou offline, en présentiel. On va lancer les moments où tu interagis avec les gens. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas forcément prévu dans tout autre meetup. Mais je pense que c'est un élément assez, un pilier assez fort du coup Design System France. C'est déjà quand tu es en présentiel, on accueille chaque personne individuellement, on leur donne un badge Hello My Name Is. Ils sont vraiment accueillis. Du coup, on leur dit ah bah tiens, tu bosses dans cette boîte-là, tu bosses sur cette problématique-là, va voir Géraldine là-bas qui bosse dans cette autre boîte et qui a cette même problématique.
En fait, tu fais la même chose que ce que tu fais chez Agicap.
Oui, très certainement, bien sûr. Encore une histoire de pattern. Et donc, ouais, donc se maintenir là-dessus, sur ces events de qualité. Trouver, du coup, les fonds pour acheter du matos, pour qu'on puisse, du coup, être autonome sur la diffusion de nos propres events sur YouTube ou tout autre média qu'on aura défini. On réfléchit à Twitch aussi. On a senti que la commu était... Bastui a clairement défriché le sujet. On sent que maintenant, il y a une appétence là-dessus, donc on se dit pourquoi pas. On se pose juste des questions d'ordre technique sur comment faire du multi-hosting. Donc, s'il y a des gens qui peuvent m'aider là-dessus, je suis preneuse. Sachant qu'on s'est jamais lancé dessus, et garder une communauté hyper bienveillante, une communauté qui est vivante aussi. Donc sur le Slack, on a des gens qui tous les jours se posent des questions. Quand on voit ce qui se pose comme question, on se dit putain, ça réfléchit fort quand même. 4 ans en arrière, c'est des questions qui se lisaient en une ligne. Aujourd'hui, les gens posent le contexte, donnent leur contexte, leur qu'ils soient opérationnels en termes de ressources, de stack technique ou design, et ensuite ils creusent le sujet. Quand tu vois le nombre de réponses qu'il y a dans un thread, tu dis waouh, ça c'est quelque chose qui existait il y a 4 ans sur le Slack Design System de Gina Han, qui était anglophone. On a atteint ce niveau-là aujourd'hui en France. Et ça c'est génial. Ça, en 4 ans, même un peu plus du coup, effectivement comme tu l'as dit, c'est entre guillemets presque plus un sujet. Ça reste un sujet, on n'a pas tout, on n'est pas expert là-dedans non plus à l'échelle française, francophone, mais il y a un gap de ouf qui s'est fait. Et ça, c'est génial, c'est dingue. Donc les enjeux, ouais, c'est garder cette vie, rester on track déjà, parce que vu que c'est un collectif, hein, Design System France, on n'est pas une asso, on a... c'est sur notre temps libre, c'est déjà trouver le temps de continuer la force. Et les events qu'on a fait dernièrement en présentiel, les gens nous ont donné une énergie de dingue. Quand on s'est retrouvés en juin, c'était la première fois qu'on faisait un event depuis 1 ou 2 ans en présentiel. On a eu des feedbacks, mais c'était extra, quoi. Ça nous a donné la niaque pour relancer direct en septembre. Encore une fois, ça c'était un event génial aussi en septembre. Et ça nous donne la force pour suivre. Donc c'est vraiment ça, c'est la suite de Design System France. Ouais, donc en récap, ouais, maintenir les events présentiels, voire online, aller peut-être sur Twitch si les gens sont chauds, garder du coup la communauté sur Slack aussi en continu, et faire continuer, et puis raccrocher les wagons encore une fois. Donc il y a un autre enjeu aussi intéressant, c'est là, on a autant de designers que de tech, maintenant, je pense. Les sujets sont très, très proches. Donc, pendant un temps, on était full design. Maintenant, on arrive à équilibrer la balance. Et là, il y a un troisième larron qui rentre dedans. C'est les PM au sein des design systems. Et là, on voit que ça émerge dans plusieurs boîtes.
Donc là, vous faites grossir la communauté en
tech. Bah, c'est de bienvenue à vous. Et voyons ce qu'on peut faire ensemble.
Très bien. Avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu as des ressources à nous recommander ?
Internet. Non, mais les podcasts, c'est super ce que tu fais.
Merci.
C'est génial. Moi, j'en ai écouté. J'ai écouté les premiers et ça fait toujours plaisir. Puis entendre les copains en plus, c'est rigolo. Les ressources. Moi, c'est j'achète beaucoup de bouquins que je ne lis pas.
Ouais, je crois qu'on est tous un peu pareil.
On me troll pas mal, ouais. Et les ressources, moi, c'est les humains. Donc j'invite. Les gens à se connecter, à se parler sur LinkedIn, c'est 1000 fois plus facile depuis 2 ans pour se rencontrer, pour échanger. Tout le monde est hyper OP pour recevoir un petit DM. Bon, on met des fois un peu de temps à répondre. Mais après, lancer un visio sur n'importe quelle heure du jour ou de la nuit selon les time zones, c'est hyper pratique. Et c'est là où on apprend le plus. Et en plus, en one-to-one, tu peux vraiment parler en détail enlever les barrières.
Tu prêches un convaincu.
J'espère bien. J'espère qu'on en prêche d'autres. Donc ouais, c'est pas des choses qui sont dispo, mais c'est des ressources à créer.
J'en déduis que du coup, si des personnes veulent te parler, LinkedIn.
Ah carrément. Ouais, je partage mon petit lien de rendez-vous et.
Eh ben très bien, je le mettrai dans la description.
J'ai fait une erreur de dire ça, j'ai peur d'avoir trop de sollicitations.
Je mettrai au moins en tout cas ton lien LinkedIn et oui, comme ça les gens qui veulent te.
Mais ouais, en fonction des sujets, je suis hyper opée pour échanger parce que j'apprends constamment des situations des autres et c'est trop cool quoi. De dire ah putain t'as fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est génial, mais pourquoi t'as fait ça? C'est trop cool.
Ouais, c'est vraiment chouette.
Mais carrément, ouais.
Eh bien, super. Je pense que c'est une bonne conclusion. Hein. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps.
Bah, merci à toi, Gauthier.
Je te dis à la prochaine.
Yes, carrément. Salut. Et merci pour le taf que tu fais.
Merci beaucoup.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.